Dans le tempo, c'est l'épisode 10. On est parti.
Let's go.
Thomas présente. Dans le tempo.
Bienvenue dans DLT. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans le meilleur podcast dédié à la musique. Ne le cherchez plus. On peut le dire, Michel, quand même. Le meilleur podcast du monde, même, peut-être.
Oh, tu peux le dire, tu peux le dire.
On est les plus humbles aussi.
Oui, on est payé pour le dire, je pense.
On est payé pour le dire, absolument. En tout cas, vous l'avez reconnu, je suis évidemment avec Chronomusique. Ici, on l'appelle Michel, ça va ou quoi?
Screw, ça va et toi?
Bah écoute,
bah,
tout
attends,
va bien.
Non, ça va pas du tout, en
non,
fait, j'ai dormi 5
pourquoi
heures.
Qu'est-ce
non,
qui
faut être honnête avec les gens. Ça va. Mais je suis fatigué, quoi.
T'es fatigué. C'est ouais. Le nombre d'heures de sommeil n'est pas suffisant.
Ouais, non, là, ça fait longtemps que je dors 5 heures par nuit. À un moment, ça va plus, quoi. Mais bon, écoute, on est là, comme disait Freddie Mercury, The Show Must Go On. Et voilà, c'est un petit peu la dure loi de l'entertainment.
Absolument, mais on est prêt à accepter, on accepte cette dure loi, Michel.
Exact.
D'ailleurs, quand même, petit point, je voulais vous expliquer un petit peu le rythme de publication, il est un peu erratique en ce moment. On a un petit décalage, là, je pense que vous l'aurez à peu près avec 2 semaines de décalage par rapport à d'habitude. Mais Michel, il faut qu'on leur explique, c'est parce que des choses se préparent.
Et parce que choses se préparent.
En fait, on cherche une personne pour nous aider sur le montage et pour derrière pouvoir vous proposer encore plus de podcasts, encore plus d'épisodes.
Exact.
On reviendrait 2 fois par mois. Donc ouais. Voilà, ça demande un peu de temps pour se stabiliser tout ça, mais c'est pour le meilleur ensuite. Donc,
exact.
Voilà. Bref,
on est là.
Épisode 10 de Dans le Tempo, on va élargir encore notre palette. On parle à chaque fois de plein de sujets très différents parce que voilà, notre passion, c'est la musique. C'est vaste comme univers, mais il y a un thème sur lequel on voulait s'arrêter depuis longtemps, c'est celui du jeu vidéo, la musique et le jeu vidéo. C'est un duo qui fonctionne bien, on ne compte plus le nombre de musiciens qui s'inspirent des jeux vidéo, à l'inverse, le nombre de jeux vidéo qui font appel à des musiciens. Et on voulait explorer tout ça le temps d'une émission, et pour ça, évidemment, on a fait appel à un des mecs les plus cools du gaming en France, un professionnel du jeu vidéo donc, mais aussi un musicien à part entière. C'est Xavier Dang, a.k.a. Mister MV. Comment ça va, Xavier?
Salutations, ça va, très bien. Moi aussi, dans la team, peu dormi, mais c'est habituel. C'est un rythme de vie.
Ça. Oui, ouais,
en même temps, quelle idée de caler ça un mardi? On sait que tes lundis soirs sont terribles, à chaque fois.
Ouais, c'est ça, ça dose. Hein. Le foot, la passion du foot a repris, la FIFA. FIFA sans le pognon, hein, on joue pas en mode foot. On doit claquer un SMIC pour tirer un guivarche. Donc, ouais, on s'amuse.
Non, et en plus, FUT, c'est le jeu le plus frustrant de la Terre. Ne surtout pas jouer à FUT. C'est
sans
tirer une balle
en
pied. Non. Michel, pour ceux qui connaîtraient pas Xavier, Mister MV, bon, c'est une superstar. Je pense que beaucoup de gens le connaissent, mais sait-on jamais ce que
sait-on
tu pourrais
jamais
nous présenter?
Mais c'est vrai que moi, il y a encore quelques mois, je ne connaissais pas du tout. Et quand les gens m'en parlaient, ils me disaient 2 choses. Ils me disaient justement, il dort peu et c'est le meilleur. C'est réel, mais je te jure, tous les gens qui m'en parlent, mon petit frère, il me parlait, ouais, Mister MV, tout, je disais, je connais pas, je regarde pas Twitch et tout, il me disait, c'est le meilleur, regarde. Puis du coup, j'ai regardé. Puis bon, là, je suis en train de me forger mon opinion. Il me faut 1 an ou 2 avant d'être vraiment sûr, tu vois, j'ai pas fait tout le tour, mais il est bien parti pour être dans mon top 10 au moins. Donc oui, t'es effectivement une des plus grosses figures du stream français à l'heure actuelle. Alors tu streams depuis combien de temps? Moi je vois marqué 2012 sur ma petite fiche.
Ouais, mais c'est à peu près ça. Ouais, j'ai commencé le shoutcast en 2011, mais ouais, Twitch, le stream vraiment c'est 2012.
Ouais. Sur Twitch, du coup avant Twitch, tu streamais où?
Avant, je faisais du shoutcast sur une petite plateforme qui s'appelait eLive, qui avait été un peu connue via Ken Bogard, qui commentait des tournois de jeux de combat là-bas, parce que justement, là, ouais, c'était un site qui synchronisait l'audio et YouTube. C'est-à-dire que si t'avais une connexion pourrie, tu pouvais caster un tournoi sur YouTube en le regardant en 360p, mais la personne qui regardait pouvait regarder en 1080p, tu vois.
Donc, c'était vraiment
c'est le futur.
Ouais, c'était le futur à fond. Ouais, en plus, moi, c'est... Parce que même à l'époque, genre 2011, 2012, c'était quoi? C'était un peu l'âge d'or de YouTube français, quand même. Donc, t'avais ce truc où...
2011-2012, c'est tôt, hein. Enfin, ouais, il y avait... Je crois que Antoine Daniel, par exemple, c'est 2012-2013, tu vois. Donc, il n'y avait pas encore What the Cut. C'était peut-être Norman Cyprien, quoi. Mathieu Sommet, peut-être.
C'est tôt. Et donc, à la base, tu viens du jeu vidéo. Enfin, en tout cas... T'étais à fond dans le gaming, d'ailleurs, enfin, tu continues. et du coup, t'as bossé chez Webedia, chez jeuxvideo.com.
Ouais. C'est ça, ouais. En gros, j'ai fait partie. Enfin, il y a le projet de Web TV Gaming Live qui s'était créé autour de Ken Bogard et moi à l'époque, il y a longtemps. Ouais. Et c'était la Web TV de jeuxvideo.com. Et quand jeuxvideo.com s'est fait racheter par Webedia et qu'on a dû déménager là-bas, j'ai plus ou moins programmé ma sortie et j'ai pas fait la rentrée après à la JVTV. Je suis parti indépendant, indie.
Et c'est bandant d'être indépendant. C'est comme bien, disait Booba.
C'est vrai, ouais. C'est vrai.
Et donc, tu es aussi passionné de musique. Donc, tu composes depuis, je vois sur ma fiche, 1998, comme vous dites chez vous.
Je pense 98, tout à fait. Depuis fort longtemps, ouais, j'ai découvert le net en 97. J'ai eu un PC l'année d'avant. Et en gros, vu que j'étais assez fan, nerd, on va dire, de musique, de jeux vidéo, notamment de RPG japonais, etc., j'ai découvert une communauté sur IRC, sur un chaîne IRC.
Oh là là, j'avais pas entendu ce mot-là depuis longtemps.
Et ouais. Qui était dédié justement au remake de jeux vidéo sous tracker. Donc d'abord, j'ai utilisé des trackers, hein, des programmes un petit peu, comment dire, old school.
Ouais, ouais.
Et j'ai fait des milliers de musiques là-dedans. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Ouais.
Des trucs genre Renoise, ce genre de trucs?
Tout à fait. Renoise Tracker, ouais. c'est justement le tracker moderne maintenant qui a des effets DSP et VST. Mais à l'époque, en fait, ce qui était révolutionnaire, surtout dans les années 90, c'est que le son MIDI, général MIDI, était un peu dégueulasse et on l'avait découvert avec l'Amiga qui faisait des modules de tracker en 4 canaux et ensuite sur PC on pouvait avoir 8, 16 puis 64, 256 canaux, mais ça permettait d'avoir justement dans les jeux vidéo des musiques avec des vrais sons, des vrais samples et pas juste de la synthèse FM ou du général MIDI, donc c'était huge à l'époque.
Ouais. Et du coup, t'as commencé directement à faire, de la musique. Enfin, à quel moment est-ce que t'as commencé à faire de la musique pour des projets qui n'étaient pas juste les tiens?
J'ai commencé en 98. Et on va dire que les premiers tafs que j'ai eus, ça devait être vers 2002-2003. Sachant que j'ai fait 2-3 ans où j'ai bossé au Black, hein, comme on dit.
Ouais, ouais.
Et quand j'ai créé ma boîte, j'ai eu beaucoup moins de projets. Hein. C'est souvent cruel destin. Mais j'ai fait pas mal. J'ai commencé à faire pas mal de petits trucs par-ci par-là, des projets de jeux vidéo pour le web, pour des grosses marques. Ensuite, des petites pubs, des courts-métrages, des petits jeux de licence sur Game Boy Advance, sur DS, ouais. sur téléphone, etc., etc.
Et c'était vraiment, en gros, t'as eu cette transition entre, en gros, ce qui te faisait graille, c'était faire de la musique sur mesure pour des jeux vidéo et tout ça, et t'as basculé directement vers Twitch. Comment elle s'est faite, cette transition-là?
La musique, ça allait, ça venait. J'avais quand même un taf alimentaire à côté, parce que... Okay. Bon, c'était cool à l'époque, mais mine de rien. En fait, j'étais dans un groupe avec des cracks du jeu vidéo. Il y en a pas mal qui ont pas mal percé depuis. Et genre, on était vraiment les gros branleurs qui parlaient 10 heures par jour sur IRC et qui allaient troller tous les autres chans. Et de temps en temps, on se disait, ah merde, il me reste 48 heures pour faire cette bande son de 15 minutes pour Game Boy Advance. Et on bourrait comme Jaja. Donc, c'était pas mal parce que c'était des projets, genre, on va dire une bande son de 10-12 minutes pour un jeu de console portable. C'était payé genre 4 000 €, un truc comme ça. Et vu qu'on le rushait, c'était cool. Donc moi qui venais d'une famille très pauvre et on avait pas mal de guerres de thunes, donc quand il y a un contrat qui rentrait, c'était Byzance, quoi.
Ouais.
Mais c'était rare, hein. Le problème, c'est que voilà, c'est beaucoup de contacts, beaucoup de chance aussi. C'est un milieu qui est hyper saturé, enfin la musique de manière générale, mais pareil, la musique de jeux vidéo sur tous les forums, il y a tous ces gens qui proposent leurs services gratuitement, et il y a tous les gens aussi, ou les startups ou machin, qui avaient pas forcément envie de payer. le fameux payer en reconnaissance. Donc c'était un peu la débrouille, la galère. Et ensuite j'ai continué la musique en hobbyiste pendant longtemps, et juste mon activité s'est un peu arrêtée à un moment à cause de la vie, ça allait pas, et puis j'ai lâché un peu la musique et j'ai perdu mon carnet de clientèle. Et c'est du coup dans un moment d'errance, j'ai commencé à streamer aussi, donc c'est beau parce que mon deuxième hobby de branleur est devenu mon deuxième métier.
Donc, voilà. Oui, puis tu continues à faire de la musique sur Twitch aussi, et puis j'imagine que du coup tu refais de temps en temps de la musique pour des jeux vidéo. Enfin, plus que j'imagine, je pense que je l'ai vu, que t'as sorti quelques trucs. Mais tu fais de la musique dans quelle proportion sur Twitch, plus ou moins?
Pas tant que ça. En gros, la musique, j'ai créé une deuxième chaîne pour parce que c'est un peu usant. Enfin, c'est usant de faire de la musique quand on est observé. Ouais. De la composition, je trouve. Donc, je le faisais sur Mister MV. Et en vrai, dès que tu poses une note, tu vois 3-4 personnes qui commencent à se dire mais non, fallait mettre un là, qu'est-ce qu'il fait. C'est très frustrant. Et puis voilà, normalement le processus créatif où tu commences et tu cherches les idées, c'est là où t'es le plus à poil, donc c'est un peu chiant d'avoir tant de gens.
Et puis j'ai envie de dire, ça doit être usant pour toi, mais c'est purement personnel, mais c'est usant je trouve pour le viewer aussi. Enfin franchement, c'est pas passionnant de voir un mec qui commence une track, quoi. J'arrive pas à comprendre comment, tu vois, un truc monté.
Surtout que j'enregistre pas des instruments, quoi. Donc c'est vraiment, des fois c'est pure session de, on écoute un son en boucle et je commence à faire du clavier souris, donc c'est long, mais il y a quand même des gens qui matent ça, mais c'est sur une autre chaîne du coup dédiée où justement je sais que c'est des gens qui viendront que pour ça et qui feront pas les relous, donc j'en fais un peu. J'ai fait quelques bandes son de jeux vidéo récemment, ces quelques dernières années là. J'ai une grosse opportunité mais qui est en attente de contrat, mais je suis en compétition avec plein de légendes du jeu vidéo japonais qui se sont réveillés au dernier moment pour aussi essayer d'avoir le contrat, donc pas sûr que je l'ai, mais si
c'est quoi pour travailler la bande son d'un jeu, c'est ça qui sortirait?
Ouais, c'est ça, pour bosser sur la sortie de plusieurs jeux qui font partie d'une franchise très intéressante, une énorme boîte de jeux vidéo qui est reprise par un studio européen. Donc voilà, bon, le lead du studio m'a à la bonne et essaie de me faire entrer dans le projet, mais comme je l'ai dit, voilà, il y a des légendes de la musique du jeu vidéo japonais des années 90 qui se sont mis sur le coup.
Bah, le mieux serait une collab.
Une collab, ouais, c'était un peu déjà le cas, mais là, s'il y a beaucoup de gens, ça va être plus compliqué.
Ok. Ouais.
Bon. Incroyable, comme vous pouvez le voir, Xavier, il est vraiment tu fais vraiment le lien entre la pratique du jeu vidéo, la pratique de la musique, que ce soit quand tu le partages, quand tu produis professionnellement des choses, du contenu, etc. Donc, t'es l'interlocuteur parfait, disons-le.
Espérons.
Ce que je te propose, c'est, on a commencé un peu à l'aborder, on s'attardera peut-être sur les spécificités un peu de la composition pour du jeu vidéo, sur ta manière de travailler, etc., ton rôle de médiateur sur Twitch aussi, comment tu partages ta passion. Mais peut-être commencer avec un thème un peu plus général sur le lien qui unit historiquement la musique et le jeu vidéo, sur le rapport que t'as au truc, parce que il y a peut-être des gens qui connaissent un peu moins cet univers, qui voient pas forcément les connexions qui existent entre la musique et le jeu vidéo, hormis le simple, ok, on met une bande son sur un jeu vidéo, ça on comprend bien, mais le lien il est quand même plus fin que ça. Ce que je vous propose les gars, donc sur cette première partie sur le lien entre musique et jeux vidéo, c'est peut-être qu'on s'attarde juste, qu'est-ce qui a éveillé ta passion pour la musique? Toi, c'est justement le jeu vidéo en amont, où déjà tu étais un passionné de musique, et le jeu vidéo n'a fait que renforcer ou a un peu, tu vois, dérivé ton intérêt de la musique sur des aspects particuliers?
Je pense que c'est vraiment venu avec le jeu vidéo en support de base, parce que moi je fais partie entre guillemets de la génération qui a découvert le renouveau du jeu vidéo, c'est-à-dire quand j'avais 5-6 ans, c'était la Nintendo la première qui sortait, et donc j'ai découvert ça avec ça, donc j'avais une culture musicale, des goûts musicaux qui étaient pas faits et pas définis, d'autant plus que mes parents n'étaient pas, enfin, n'écoutaient pas vraiment, collectionnaient pas de disques, n'étaient pas grands amateurs de musique, quoi. Donc oui, c'est juste venu avec, les gamins des 80s complètement absorbés par la culture 8-bit, 16-bit qui est arrivée. Et moi, du coup, par décalage, j'ai absorbé toute la puissance des bandes son de la musique et je devenais fan. Je faisais des cassettes, je fredonnais. Et donc, oui, c'était entre guillemets ma première approche avec la musique ultra mélodique, du coup, parce qu'à l'époque c'était beaucoup beaucoup dans la mélodie
à fond. Le premier vraiment dont tu te souviens ce thème là il t'est resté en tête, tu t'es dit wow, c'est un truc de dingue?
Bon, moi j'ai eu la console avec Mario et Zelda 2 en premier jeu. C'était un peu sadique vu qu'il a la réputation d'être très dur, mais voilà, Zelda 2 typiquement il a une bande son assez folle et justement un petit peu un petit peu étrange au final, pas aussi évocatif que Mario. Donc déjà c'était des thèmes qui m'ont vachement marqué, quoi. Dès ça, et puis ensuite j'ai eu tout entre les mains, quoi, que ça soit les Megaman, les machins, donc
Si tu devais citer là quelques jeux pas forcément anciens, globalement dans ta carrière, dans ta vie vidéoludique, des jeux dont la musique en particulier tu te dis putain, ok, là il s'est passé quelque chose, ça t'a marqué, ça t'est resté, ça t'a inspiré, pourquoi pas, et t'en ressors quelques-uns comme ça?
Ouais, il y en a énormément. Il y a des jeux obscurs, mais il y a des jeux aussi évidents, Final Fantasy 6 et 7, pour moi c'est vraiment une réussite de bout en bout. C'est vraiment impressionnant d'avoir 70-80 morceaux dans chaque bande son qui sont cohérents avec très peu de déchets. ce qui, ouais. Ce qui est moins le cas dans les autres Final Fantasy qui ont des chefs-d'œuvre mais aussi pas mal de déchets. Il y a des choses plus récentes aussi qui m'ont marqué quand justement je comprenais un petit peu la logistique, un petit peu plus la logistique derrière. Typiquement Red Dead Redemption. Pour moi, c'était vraiment fou. Il y avait un petit reportage qui était super intéressant d'ailleurs parce que vraiment. Enfin, Rockstar, ils sont un peu maladifs du détail. Mmh. Et en gros, ils ont fait venir plein d'instrumentistes qui jouaient des instruments du Far West et tout, des vieilles guimbards, des accordéons, machin. Et en fait, ils les ont fait enregistrer des centaines d'heures de motifs en la mineur. Ouais. Et c'est pour ça que la bande son, en fait, elle est tout le temps évolutive parce qu'ils ont enregistré tellement des centaines et des centaines de nappes que selon ce qui se passe à l'écran, tu vois, c'est alimenté en direct. Ça accompagne l'action, mais du coup, toutes les transitions sont naturelles parce que tout est en la mineur. Donc des choses de genre très cool. J'ai beaucoup aimé Mass Effect 2 aussi en termes musical aussi. C'est une belle collab de musiciens où on a vraiment une ambiance ambiante espace avec de beaux motifs et de beaux thèmes qui avaient été un petit peu installés par Jack Wall qui faisait le premier Mass Effect. Donc ça c'est une belle trilogie, c'est un peu le Star Wars du jeu vidéo on va dire Mass Effect. Et ensuite, j'aime beaucoup aussi, j'ai fait beaucoup de chiptune et j'aime aussi les choses très simples. Moi, je suis assez fanatique de l'époque Game Boy et Nintendo NES parce que pour moi, c'est incroyable. Typiquement, les bandes son Konami sur NES, c'est, que ce soit des Contra, des Tortues Ninja, etc. Mm-hmm. C'est des fans de prog rock, rock et compagnie. On leur a dit, t'as deux canaux de Square Waves et un canal de triangle, triangulaire. Et il y a un canal de bruit blanc et tu t'éclates et ils font des choses qui sont absolument hallucinantes, vraiment très rigolo, tu retrouves des choses folles ou des fois même des polyrythmes, enfin c'est trop rigolo quoi.
Il faut le dire, là je rebondis sur ce que tu dis, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est que autant aujourd'hui la musique de jeux vidéo dans la façon de produire c'est similaire à ce que pourrait faire un musicien pour un album par exemple, autant à une époque on était limité par du hardware avec des chipsets audio etc, et qui fait qu'il fallait trouver des paras d'une certaine manière, en tout cas une façon d'adapter sa musique à la technique, au hardware qu'on avait sous la main, quoi. C'est là ce dont tu parles, c'est un peu, il y avait une espèce de virtuosité de mec qui avait des inspirations et qui essayait de les insuffler malgré les limitations de la machine.
Ouais, exactement. Ouais. Il y avait tellement peu de place, mais finalement, ouais, justement, en calant bien les mélodies, les harmonies, en faisant des faux délais. Il y avait des techniciens à cette époque-là. Il y a les frères Follin qui sont pas mal connus, dont Tim Follin, qui vraiment ont fait des bandes son NES où ils abusaient de l'arpège. Donc, les arpèges à la NES, à Commodore 64, c'est-à-dire où vraiment tu enchaînes les notes extrêmement vite pour donner l'illusion d'un accord. Et donc, toutes ces techniques, entre guillemets, de bricolage de système D permettaient de... c'était super enivrant, entre guillemets, parce que les mecs se déchiraient avec rien, quoi. Vraiment, trois canaux musicaux, c'est très, très peu. D'autant plus qu'ils avaient des limitations particulières. C'est-à-dire, par exemple, les deux premiers canaux d'onde carrée, t'avais 16 niveaux de volume, mais l'onde triangulaire, qui sert de basse souvent, quand elle est jouée très basse, ça fait un son très rond, une sub-bass, quoi. Il y avait que on et off. Donc, tu pouvais même pas avoir de fondu de volume sur ce truc-là. Donc, c'est pour ça, vu que t'avais que on et off, tu utilisais en basse, t'essayais de faire des toms avec des chutes de toms, des kick drums. Enfin, un gros délire, quoi.
Mais de manière générale, les contraintes, c'est toujours... moi, c'est dans les contraintes que je m'épanouis le mieux musicalement. Enfin, genre, ça t'évite aussi le syndrome de la page blanche. Tu sais que t'as certaines limites, certains trucs. Et puis après, justement, je sais pas, je trouve ça un peu plus stimulant, un petit peu plus amusant. J'ai l'impression, en tout cas, que ces limitations-là ont vraiment... Enfin, c'est que t'as toujours des trucs comme ça où avant que la technologie évolue, t'as toujours des petits fifous qui font vraiment des gros trucs de dingue avec ce truc-là, et je pense qu'ils sont inspirés par ce truc-là aussi, quoi.
Ouais, clairement. Là où sur une compo moderne, justement, tu dois entre guillemets faire l'effort de rajouter du ear candy, des jolies choses autour, etc., et d'étoffer un morceau, ou bien tu peux te permettre de répéter ta mesure avec quelques embellissements. Là, en fait, t'es toujours en train de caler du ear candy dans les micro-trous. Pour rendre ton morceau intéressant.
Peut-être la notion de ear candy, tout le monde ne la maîtrise pas. Peut-être, juste si tu peux nous dire rapidement.
Pour moi, le ear candy, en gros, c'est tous les petits motifs, toutes les petites choses que tu vas faire apparaître autour pour un petit peu ajouter de l'air, de l'espace et de la variation fantôme, entre guillemets, dans ton
c'est
morceau.
C'est-à-dire. Une espèce d'agrémentation sonore sur un morceau comme ça pour apporter.
Qui run de flûte, une harpe qui résonne au loin.
Des petites contre-mélodies.
Et c'était vraiment de la débrouille, mais il y a vraiment des chefs-d'œuvre de technicité, même à cette époque-là, même à l'époque du 8-16 bits qui sont sortis. avec une flopée de quelques occidentaux et une flopée évidemment de compositeurs et compositrices japonais.
Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a eu un moment l'émergence quasiment de musiciens de jeux vidéo superstars, enfin de compositeurs. Mais c'est vrai que je suis peut-être la génération un petit peu après, dans le sens où moi c'est pas la NES qui m'a marqué, ce serait plutôt la Mega Drive et la Super Nintendo, une génération après en fait. Et tu vois, c'est Street of Rage, Shenmue plus tard, c'est le même mec, c'est Yuzo Koshiro. T'as vraiment des superstars comme ça qui ont émergé. Est-ce qu'on apportait presque plus d'importance à l'époque à qui est derrière la bande-son d'un jeu, ou est-ce que tu penses que c'est le cas aujourd'hui? J'ai juste l'impression qu'il y a moins de noms comme ça qui ressortent, mais peut-être parce que je suis moins à la scène aujourd'hui, je sais pas.
C'est juste qu'aujourd'hui... En fait, il y a de super bandes-son qui sortent de nos jours aussi, mais c'est vrai que vu que maintenant c'est un petit peu plus convenu avec des productions qui sont très cinématographiques, même dans la présentation, quoi, beaucoup de cutscenes, de gros plans, etc., de mise en scène. Donc on a beaucoup de jeux. Enfin, je veux dire, par exemple, la bande son de God of War, hein, pour reprendre un exemple récent, le reboot de God of War, c'est Bear McCreary qui est derrière Battlestar Galactica et plein d'autres choses.
Ah, je savais pas ça. Ok.
Et c'est vraiment construit comme une musique de film, c'est super fort, hein, avec un motif de trois notes au cuivre qui représente Kratos, qu'on retrouve ici et là, etc. C'est extrêmement bien pensé tout du long. Mais du coup, c'est peut-être... Si on n'est pas fan, c'est vrai qu'on la vit dans le jeu, mais on n'a peut-être pas le réflexe d'y revenir derrière. Enfin, je sais pas, c'est différent, là. Vraiment, à l'époque, c'était emblématique. Il y avait moins de monde, il y avait moins de jeux aussi.
Ouais.
Et il y avait des séries phares. Donc oui, les Final Fantasy, c'était évidemment de facto associé à Nobuo Uematsu. Il y a Yuzo Koshiro. Bon, c'est particulier parce que, comme dit, c'était le premier à avoir copyrighté sa musique. C'était un génie du modulaire, etc. Il s'est beaucoup amusé. Mais ensuite, ouais, il y avait aussi les sound teams. Hein. Finalement, on a découvert beaucoup de ces légendes du jeu vidéo plus tard. Parce que typiquement, Capcom et Konami signaient tout sous un label, un groupuscule, entre guillemets. Et donc, c'est après, par la suite, que justement, Ryoko Shimomura, on s'est rendu compte qu'en plus de Parasite Eve, Legend of Mana, Kingdom Hearts et compagnie, c'est elle qui avait fait le thème de Guile de Street Fighter et plein d'autres thèmes dans Street Fighter 2, etc. Enfin, qu'elle avait fait 12 000 trucs, trop vénère.
Une des rares superstars féminines de l'époque, je pense. Enfin, même si c'est plus tard qu'elle l'est devenue, mais c'est assez...
Étrangement, ouais, malgré ce qu'on pourrait penser de je sais pas, enfin, je dis une idée qu'on pourrait avoir peut-être du milieu professionnel japonais, c'est il y avait énormément de compositrices dans le milieu du jeu vidéo dans les années 80-90. Ensuite, faut rappeler que c'est un métier qui était considéré comme un sale métier au Japon au début, visiblement. C'était pas du tout prestigieux de faire la musique de jeux vidéo, donc a priori c'était payé au lance-pierre, et puis ouais, tu te faisais caillasser en soirée, mais du coup c'est cool parce que finalement ils sont devenus des icônes et maintenant ça a beaucoup plus de reconnaissance, quoi.
T'as dit un truc intéressant et j'aimerais bien avoir l'avis de Michel aussi là-dessus, c'est t'as fait un peu de toi-même le parallèle avec la musique de film. Est-ce que, justement, il y a eu, avec les techniques qui ont évolué, et donc la frontière, en fait, entre d'un côté, t'avais la composition pour le jeu vidéo d'une certaine manière, et de l'autre, la composition pour la production musicale, pour du cinéma, etc. Petit à petit, elle s'est effacée aujourd'hui, et il y a beaucoup de similitudes. Est-ce qu'il y a encore quand même des particularités? Toi, Michel, qui t'intéresse à la musique de film, qui produit de la musique à l'image, etc., est-ce que tu t'es déjà penché sur la musique de jeux vidéo? Est-ce qu'il y a encore des différences? Est-ce que, par exemple, le fait qu'on ait un gameplay dans le jeu vidéo, ça change quand même le rapport à la musique? Est-ce que vous avez tous les deux un regard un peu là-dessus?
Ben, y a des points communs et il y a des différences, quoi. Il y a le point commun, c'est que ça pose un mood, que idéalement c'est quand même censé porter un propos, et donc ces trucs là entre les deux, ça bouge pas trop. Je pense que le gros truc, c'est déjà la quantité. Voilà, un film, tu scores un film, tu dois faire quoi, entre 40 et 50 minutes, ça dépend de la longueur de ton film, tu vois, mais je veux dire, t'as ça dans un jeu vidéo, comme il disait MV, tu peux enregistrer des centaines d'heures pour un truc, pour que ta musique elle soit évolutive. Donc c'est la grosse différence, c'est le contrôle du joueur sur ce truc là sur un film, t'en es pas en contrôle, quoi. Donc tu, pour permettre une espèce de liberté, ben tu dois travailler beaucoup 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 plus, je pense. Donc je pense à l'heure actuelle c'est un peu ça la différence. Je pense qu'à l'ancienne, du coup t'avais cette question là enfin ça se posait moins, je pense. Après moi je faisais pas de musique à ce moment là tu vois, mais j'ai l'impression que dans les thèmes à l'ancienne, voilà, un thème de Super Mario, t'as une track qui se lance quand le niveau il commence, Et bah après, potentiellement, oui, voilà, tu descends dans le truc et puis ça change de tableau. T'as deux, trois trucs comme ça.
Même si t'avais déjà à l'époque le RPG qui durait 100 heures, etc., ça existait déjà, quoi.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais à ce moment, du coup, c'est. Enfin, ouais, je pense que c'est juste que maintenant qu'on a plus d'espace, on l'utilise et on se permet de faire des trucs plus évolutifs et tout ça parce qu'on se dit que c'est plus intéressant.
Mais est-ce que fondamentalement, il n'y a pas derrière ma question, enfin, après, Xavier, je te laisserai répondre librement, mais là, ce que me dit Michel, j'ai l'impression, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait tout simplement que la musique de film a bouffé tout le reste? Il y a eu un canon qui s'est imposé et que le jeu vidéo, un peu naturellement, il a intégré ça comme une espèce, tu vois, de référence à la pop culture de manière générale, un truc plus globalisé et on reprend ça aussi dans le jeu vidéo?
Ben probablement. Ensuite, comme je disais, ben vu que les productions sont devenues quintuple A comme les andouillettes, forcément la présentation était. C'est difficile, tu vois, d'agrémenter un God of War ou un Horizon ou un truc comme ça ou un Mass Effect avec autre chose qu'une bande son qui a évidemment, enfin, une des textures qui se rapproche de la texture de film, quoi, de la texture entre guillemets orchestrale / hybride quali, quoi. Mais là où ça a évolué justement, et comme le disait Chrono, c'est justement l'aspect dynamique qui, moi j'avais un peu taffé dessus. On parlait plutôt en off de Streets of Rage et compagnie. Olivier de Rivière, compositeur, lui bosse énormément sur l'aspect dynamique de la musique, presque élitiste dessus, c'est assez drôle. Mais il y a plusieurs manières en fait de rendre ça dynamique, tu vois, ou bien en effet en composant juste beaucoup énormément de nappes et selon des points de déclenchement qui se passent en jeu, ça rajoute des textures, ça fait des choses comme Red Dead Redemption et compagnie. Ou bien c'est une corde que j'ai pas à mon arc. Mais en général, maintenant, on bosse énormément avec de la programmation audio et divers moteurs et divers programmes qui permettent justement de programmer plein de points de déclenchement pour plein d'éléments de la musique selon ce qui se passe en jeu, selon là où on est, pour faire des transitions.
Est-ce que ce serait de la musique procédurale? On peut parler de ça ou...
Non, je dirais pas que là, ouais. Ensuite, ça doit être possible.
Il y a des choses qui se font un peu comme ça, il me semble, de la musique vraiment procédurale, ultra adaptée en temps réel, absolument tout ce qui se passe dans le jeu.
Oui, exactement.
Adaptation de BPM, adaptation de la tonalité, etc.
Je crois même, typiquement, ce qu'on voit beaucoup aussi, Nintendo était très bon, il y a Flower aussi qui a fait ça. C'est un peu du génie de sound design, là, on rentre vraiment du sound design, mais typiquement, je vais prendre un exemple de jeu que j'ai beaucoup dosé, c'était Mario Odyssey. Mais on retrouve ça dans tous les Mario, tu vois, c'est très con, mais t'as un stage avec un thème musical. Donc oui, selon où tu te trouves, sous l'eau, etc., il y a des fils qui se mettent en place. Selon là où tu ressors, il y a des nappes en plus en moins. Mais c'est très con, mais par exemple, si tu prends possession d'un poteau électrique et que tu te balades en câble électrique, tout ton trajet sur le câble électrique avec l'électricité, etc., ça s'adapte, ça joue que des notes de la gamme du morceau qui est en train de jouer, tu vois, des trucs de genre. Donc c'est comme ça, entre guillemets, que tu augmentes l'expérience par rapport au film, la musique de jeu vidéo, c'est d'adapter tout le décor et toute l'interaction autour de la gamme où tu te trouves.
Et tu verrais d'autres spécificités. Ah pardon Michel, tu voulais dire un truc?
Moi, j'allais dire, je pense que c'est aussi un point commun entre la musique de film et la musique de jeu vidéo, c'est que le gros du taf, mais je pense que c'est la musique en général, le gros du taf, il est en soum-soum, quoi. Le gros du taf ne sera pas remarqué. Ce qu'on va remarquer, c'est les thèmes flamboyants, c'est, tu vois, ce genre de truc. Et en fait, c'est les détails qui représentent 90% du produit fini, quoi.
Pour le coup, ouais, c'est exactement ça. C'est beaucoup de travail. Et des choses aussi. Streets of Rage 4, par exemple, pour reprendre cet exemple-là aussi. Enfin, c'est très con, mais il y a toujours, c'est toujours comme si on bougeait des potards en permanence aussi selon ce qui se passe à l'écran. S'il y a une grosse patate qui part, paf, il y a un gros filtre qui arrive et qui absorbe un petit peu la musique pour laisser place à l'impact. Donc, ouais, c'est des choses, entre guillemets, où faut tendre l'oreille. Mais en termes de feedback, de game feel, c'est assez super puissant, quoi.
Donc la grande différence reste comment on adapte l'interaction, mais fondamentalement en termes de sonorité, on a peut-être moins de particularités aujourd'hui dans la musique de jeux vidéo par rapport à celle au cinéma. Où est-ce qu'il reste une scène qui, tu vois, vraiment spécifique avec des sonorités, des façons de composer, des mélodies vraiment qui seraient presque rattachées à l'univers jeu vidéo, tu vois?
L'avantage, c'est comme le cinéma, même si maintenant, le cinéma en plus, le cinéma qui a d'abord connu la crise de tous les blockbusters qui bouffent toute l'attention, puis là le Covid, donc c'est particulier, mais dans le cinéma, on a des milliards de cinémas. Et le jeu vidéo, ce qui est génial, c'est que la scène du New Retro, elle a jamais été aussi active, quoi. Des jeux indés qui font hommage à la culture justement des 80s, 90s, et voire même on commence à avoir maintenant la nostalgie des graphismes des 2000. Dégueulasses de la première PlayStation.
Let's go.
Donc voilà. Donc du coup c'est bien parce que ça fait perdurer ces genres aussi, et même le chiptune, tu vois, évoluer finalement, c'était tellement culte tous ces motifs et ces sonorités et ces restrictions de la Nintendo et la Game Boy à l'époque, que finalement elles sont transposées maintenant dans des productions beaucoup plus modernes. Et donc on a des hybrides de grosses électro qui tabassent avec de la Game Boy utilisée, ou bien avec Little Sound DJ, ou plein de trucs enregistrés en direct. Il y a Chipzel d'ailleurs, une compositrice très très cool qui a fait ça, qui a fait Dicey Dungeon, Super Hexagon et plein d'autres jeux, qui elle c'est ça quoi, c'est de la grosse prod, enfin c'est de la prod électro ou dans des styles divers on va dire, mais qui a toujours des Game Boy derrière et qui utilise des motifs et des arpèges hyper reconnaissables entre guillemets.
Quand tu dis qu'elle a des Game Boy derrière, parce qu'en fait il y a des gens qui utilisent le hardware de l'époque, dont la puce, pour produire du son, et l'utilisent sur scène comme un instrument comme un autre, en fait, c'est ça?
Exactement, on branche la Game Boy dans un jack et c'est parti.
Incroyable. Et Xavier, qu'est-ce que t'en penses? J'ai l'impression que les jeux vidéo font de plus en plus appel aux musiciens. Parce qu'il y a évidemment des compositeurs, enfin musiciens, je veux dire, qui ne sont pas du monde du jeu vidéo à la base. C'est-à-dire qu'il y a des compositeurs dont c'est le métier, ok, de faire du jeu vidéo, mais il y a de plus en plus d'artistes dont c'est pas le métier à la base, qui s'y collent. Alors, dans les trucs un peu les plus connus récemment, il y a eu évidemment sur Hotline Miami, tu sais, sur Fury, avec toute cette scène Carpenter Brut, t'as eu Toxic Avenger, Lorne, Danger, Perturbator, Scuttle, enfin des mecs qui... presque naturellement quand même colle un peu avec l'univers jeu vidéo, même si je suis tombé sur des exemples incroyables aussi. Il y a eu The Nomad Soul par exemple en 99, où il y avait David Bowie qui avait bossé la BO.
J'étais en train d'y réfléchir en plus. Exact.
T'as eu Amon Tobin sur un Splinter Cell, tu savais ça toi?
Oui, c'est pas, dès que c'était sorti, j'avais acheté la BO à Splinter Cell Chaos Theory, la troisième bande monstrueuse de Amon
Tobin. Incroyable.
Alors parle-nous un peu de ça. Est-ce que c'est vraiment est-ce que ça existe depuis longtemps en réalité, ou juste c'est un peu plus visible aujourd'hui? Est-ce que c'est que les musiciens ont plus envie de s'intéresser aux jeux vidéo, c'est que l'industrie du jeu vidéo se dit on va faire appel à des musiciens parce que ça fait vendre? Enfin, quel est ton regard un peu sur tout ça? Comment ça se passe?
Il y a un peu de tout aussi, je pense, mais il y a aussi le fait que la plupart des, je pense maintenant, des musiciens sont aussi joueurs. Quasiment tout le monde est joueur maintenant, donc je pense que c'est un intérêt qui est plus évident ou plus naturel maintenant. Mais c'est vrai que dès les années 90, David Bowie, on en parlait, mais voilà, toutes ces stars qui avaient un petit peu, qui étaient intéressées par le numérique, la génération digitale, avaient envie de faire des choses, tu vois, mais c'est juste que il y en a qui sont beaucoup plus impliqués. Typiquement, là, j'avais diffusé sur mon Twitch un concert de Danger où il a entièrement fait le set en 3D, c'est un set virtuel de 15 minutes, et lui il a fait la bande son, il a bossé sur Fury mais aussi sur Haven là récemment. Et voilà, c'est des gens qui au-delà de faire la musique, voilà, s'impliquent dans l'univers visuel, font du sound design et compagnie, et on a beaucoup, même les compositeurs de films qui viennent sont plus impliqués, essayent des choses, parce que moi je parlais de Bear McCreary pour God of War, mais God of War a de la musique évidemment aussi dynamique, c'est-à-dire selon ce qui se passe, selon si on est proche de tuer le boss et le fondu vers la cutscene, etc. Il y a des éléments dynamiques, donc ils sont un peu plus impliqués. Mais c'est vrai qu'on a des exemples même dans les années 90. Typiquement, je pense qu'un des plus gros souvenirs musicalement de joueurs et de joueuses qui avaient joué sur PlayStation 1, c'était Wipeout 2097, où la bande-son, c'était du Future Sound of London, c'était la version instrumentale de Firestarter de Prodigy, du Chemical Brothers, du Underworld et tout. C'était insane d'avoir ce genre de bande-son. Donc là, c'était du feat pur et dur, c'était des pistes utilisées telles quelles.
Il y a beaucoup de trucs avec les jeux de sport, j'ai l'impression, les jeux de foot, les jeux de course et tout ça.
Ça c'est convenu parce que c'est très mainstream, c'est vrai que là on a pour le coup des groupes du top 50 comme on dit, des billboards. Ça c'est assumé,
Et même on est toute une génération, je pense, à avoir été abreuvés en punk rock grâce à Tony Hawk, par exemple, où effectivement FIFA, les compiles en plus elles sont plutôt qualies en général de FIFA, je trouve. T'as du gros banger EDM qui tâche, tu vois, qui c'est pas trop mon délire, mais t'as aussi quelques trucs un poil plus pointus, pop indé, etc.
Ouais, puis t'avais les SSX, j'ai l'impression que vraiment c'est propre au sport, tu vois, les jeux de catch,
c'est vrai, il y a quelques featuring de jeux d'arcade qui étaient drôles aussi, t'avais The Offspring dans Crazy Taxi.
Exactement.
Ouais, ouais, des apparitions, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus impliqués. Et Splinter Cell, justement, avec Amon Tobin, c'était vraiment un gros projet. Typiquement, Splinter Cell, tu sais, ouais. C'est un jeu qui est vraiment fait pour le coup, que dès le premier opus, il y avait cet aspect dynamique de, qui est pas révolutionnaire, mais qui est en mode, t'as des nappes d'ambiance, d'infiltration. Ensuite, il commence à y avoir de la tension, tu commences à être repéré, il y a des charlets, des trucs qui arrivent et tout pour soutenir l'action. Puis ensuite, les grosses batteries hyper saturées et hyper cassées de Amon Tobin, dès que ça partait en couille. Ouais, c'était ouais. À l'état d'alerte, quoi. Bon son, très quali. Hein. Donc ouais, ils ont toujours été là. Et maintenant, en plus, il y a des noms de films. On a parlé de Bear McCreary, mais on peut dire pour Mass Effect 3 aussi, il y a 2-3 thèmes qui sont composés par Clint Mansell, qui ouais. est connu pour c'est avoir bien sûr réalisé la bande son de tous les reportages sur M6 et TF1 avec Luxa Eterna de Requiem for a Dream, mais ouais, il y a du beau monde maintenant, ouais.
Et tu penses que c'est aussi un argument marketing pour le jeu vidéo que d'avoir des mecs comme ça, que ça fait vendre?
Je sais, pour, en fait, ouais, surtout pour les gros AAA, moi j'essaie de réfléchir justement à des exemples récents où on a mis vachement en avant un compositeur ou une compositrice qui était hors du spectre pour faire la promo d'un jeu, c'est pas évident. Bear McCreary évidemment était sur la scène de l'E3 quand ils avaient annoncé God of War, et c'était lui qui était le chef d'orchestre de l'orchestre sur place pour l'E3 de Sony.
Je suis tombé sur un exemple mais qui est un peu ancien maintenant. J'ai découvert que Nine Inch Nails avait bossé sur Quake, sur la BO de Quake, et qu'apparemment il l'avait pas mal mis en avant, et que le duo donc avec Trent Reznor, effectivement, il l'avait même joué sur scène, etc. Enfin, il y a eu vraiment un truc un peu de plus que seulement comme ça, effectivement, soum soum, comme tu disais, Michel, je rajoute une petite touche, je sais pas quoi. Apparemment, le mec avait vraiment, même sur scène, tu vois, bossé le truc, quoi.
Ouais, ça me surprend pas. C'est toujours été un nerd synthé. Ouais,
design. Bah d'ailleurs, maintenant, il est aussi dans la musique de film et tout ça, donc.
Ouais, bien sûr. Atticus Ross, ils font beaucoup de BO très cool. Ouais.
Incroyable. La bande-son de Millennium, là. Ouais. Girl with the Dragon Tattoo, elle est incroyable avec le remix de Careno, là, de Immigrant Song. Ouais, genre ce remix il est incroyable, mais
et la dernière, pardon, après je te laisse terminer, Michel. La BO du dernier Watchmen, tu sais, l'adaptation série récente, Watchmen, c'est une tuerie, et c'est aussi Trent Reznor
ils sont trop forts, c'est un très bon duo. Mais j'allais dire, je suis pas sûr que ce soit un argument marketing tant que ça, tu vois. Je pense que la plupart des gens, globalement, ils s'en foutent, quoi. Ils se disent pas, waouh, ce jeu vidéo, il y a tel artiste qui a fait la BO, je vais l'acheter, tu vois. J'ai l'impression que globalement, ils s'en foutent.
Ça peut apporter de la lumière, quand même. Enfin, tu vois, genre, sur Hotline Miami 2, t'attends qu'une chose, c'est de dire, ah, quel va être le roster sur la BO, quoi.
Ouais.
Ça joue quand même, tu vois.
Dans ces cas-là. Dans ces cas-là, oui, c'est une expérience qui tourne autour de la zik, et ouais, ces artistes-là. Ensuite, ouais, ça reste une niche, hein, en réalité.
C'est ça. C'est parce que pour moi, c'est comme si tu me parles de Guitar Hero, quoi. Tu vois, il y a un côté où, oui, à ce moment-là.
Oui, voilà, ouais, les jeux musicaux, c'est ça par là. C'est ouais, il y a des featuring de rêve, mais bon, c'est le but, c'est le seul point à vendre. donc c'est normal, mais oui, non, ouais, pas tant que ça. C'est réel. Aussi, il y a le fait est que. Si pour certaines grosses licences, t'attends presque les compositeurs du jeu vidéo, tu vois, c'est très cool.
Oui, voilà.
Kingdom Hearts, tu dirais que ça serait quelqu'un d'autre que Yoko Shimomura, je pense que les fans seraient aliénés, tu vois.
Ouais, voilà.
Même si t'amenais une grosse rosta, donc je pense qu'il y a des choses qui sont un peu intouchables. Et pour les grosses licences, typiquement, Bear McCreary, tu vois, pour God of War, c'est un énorme ajout, mais de toute façon, c'est God of War. C'est genre le summum du triple A. Ouais. Donc, si ça avait été Bear McCreary ou Jackie du PMU du coin, enfin, ça n'aurait pas influé, je pense, sauf si le résultat avait été catastrophique. Les
puis Bear McCreary, c'est genre quelqu'un qui est respecté dans ce milieu-là et tout, mais genre, les gens, tu leur parles de compositeurs de musique de film, à part John Williams et Hans Zimmer, de manière générale, enfin, pour le grand public, Bear McCreary, ça reste quand même.
C'est sûr que dès que tu rentres, dès que tu sors des spectres, enfin des trinités, genre ouais, Zimmer, Williams, Morricone, c'est vrai que le grand public, bon, c'est et pas forcément hyper hyper au jus des compositeurs en vogue, mais donc ouais. point de vente, je suis pas super sûr.
Ouais, ouais, ça reste quand même un peu cloisonné tout ça, c'est-à-dire que t'as quand même des compositeurs attitrés plutôt à l'univers jeux vidéo, voire cinéma, parfois qui font un peu les deux, etc. Et puis t'as l'univers, plus la scène purement musicale, et même s'il y a des liens parfois, ça a pas complètement bouffé le jeu vidéo, quoi. Il reste les spécificités du jeu vidéo.
J'ai l'impression que c'est encore une fois un truc que tu peux faire le parallèle avec le jeu vidéo, tu vois, genre, c'est pas avec les Daft Punk qui avaient fait la bande-son de Tron, c'est un giga coup. Ouais. Mais ça peut pas vraiment devenir une vraie tendance parce que c'est pas l'intérêt des gens, quoi. Je pense que c'est cool quand t'as quelqu'un qui est vraiment très à la mode et que ça fit super bien sur le projet. mais après, tu vois, je pense à Billie Eilish pour le dernier James Bond là. Tu vois, des trucs comme ça où t'as des feats comme ça qui se font, mais je pense que ça peut marcher une fois par an sur un très très grand projet. Ou alors sur des projets de niche où genre les gens sont déjà intéressés par la musique et du coup le fait que tu ramènes tel artiste un peu pointu, ça fait le taf et tout, tu vois.
C'est vrai qu'il y a, c'est est-ce qu'il y a des équivalents dans le jeu vidéo, dans le cinéma, tu as certaines licences où tu as, en vrai il y a surtout James Bond, je sais pas s'il y en a d'autres, mais tu sais, où tu as le tube d'une star qui est pour un James Bond sorti, tu dois avoir la chanson du film interprétée par une star de la musique. Et est-ce qu'il y a un équivalent dans le jeu vidéo, tu vois, même dans le cinéma, je sais pas s'il y a d'autres exemples comme ça. Ça c'est
L'équivalent peut-être qui a amené à venir maintenant, vu que le mec a un melon infini, c'est les jeux de Kojima, je pense, parce que Death Stranding, par exemple, Death Stranding, c'est vraiment j'essaie de retrouver un peu la setlist, mais c'est un agglomérat de gros groupes, gros icos quand même. Parce que t'as Churches qui fait des morceaux, t'as surtout comment il s'appelle ce groupe assez cool d'ailleurs, musique bien déprimante là. Ça va m'énerver, je vais essayer de retrouver ça. Mais ouais, Death Stranding, t'as pas mal de ne serait-ce que visuellement, au niveau des acteurs utilisés, t'as beaucoup de monde, là, avec Michael Madsen, Léa Seydoux et compagnie. Mais pareil, il a ramené que des restas, il faisait des selfies avec tous les icônes qu'il ramenait. Donc c'est peut-être l'exemple. Enfin, Kojima a toujours eu un petit peu comme David Cage, mais avec sûrement un peu plus de talent, pour le coup, Kojima. A toujours eu cette ambition de casser un peu la frontière entre le cinéma et le jeu vidéo. Donc je pense que c'est des gens comme ça qui ont des aspirations archi élitistes, mais voilà, qui veulent se rapprocher, qui vont essayer d'avoir des grosses rostas comme ça. Mais c'est pas trop le format du jeu vidéo. Le jeu vidéo, ce qui fait que ça cartonne, c'est un concept qui cartonne et un buzz, etc. Mais qui passe pas forcément par le musicien, donc je sais pas.
Ou sur une esthétique, enfin j'ai l'impression que par exemple Cyberpunk, ça c'était beaucoup, enfin il y avait toute l'esthétique méga synthwave testostéroné qui a aidé à faire le truc, mais ils ont ramené personne de spécial pour ce truc là comme
Ils ont une sound team de fou hein. Par contre la bande son, enfin Cyberpunk on peut lui reprocher à beaucoup de choses, mais la bande son est excellente. Mais c'est vrai que oui, il y a pas de star. De toute façon, c'est une philosophie tout autre, c'est des projects. Et les amis polonais, ouais, c'est vraiment plus bosser entre eux. Bon, à part Keanu Reeves. Si, il y a Keanu Reeves, bien sûr.
Oui, c'est vrai.
Il y a quand même Keanu Reeves.
Qui est un bassiste.
Oui, exact. Ouais, c'est Low Roar. Okay. Ouais, t'as quand même du Low Roar, t'as Aura, t'as Churches, t'as Major Lazer, Bring Me the Horizon. Ouais, t'as des gros noms.
Ouais.
Chez Death Stranding, que j'ai détesté.
C'est le Kojima où tu dois amener des colis, là, c'est ça?
Exactement.
Il me faisait pas rêver.
C'était extrêmement prétentieux et que ça excusait beaucoup trop des moments de vide de gameplay très très long. Mais il y avait de bonnes idées aussi, mais ouais. J'étais pas le public.
Là, je pense qu'on a fait un petit panorama un peu de... Bref, hein, on n'est pas rentré dans tous les détails, mais pour avoir une vision un peu globale de la musique de jeux vidéo, tu vois comment il y a eu des évolutions à travers le temps, comment il y a différentes pratiques, comment il y a une frontière, à la fois pas complètement une frontière avec la musique de film, etc. Il y a quand même un point, limite on aurait dû commencer par ça, mais le point d'accroche entre musique et jeux vidéo, c'est les jeux vidéo musicaux, de rythme, de trucs, etc. Comme ça, où tu peux même composer parfois. T'es friand un peu, toi, de ce genre de truc? Ou Michel aussi, t'as déjà essayé ce genre, tu vois, même du Guitar Hero, tout simplement, ce genre de jeu?
Moi, bien sûr, j'ai dosé Guitar Hero. Bien sûr.
Ah pareil, ouais, moi le Guitar Hero, Rock Band et compagnie, beaucoup joué, même des petits jeux, les petits jeux un peu plus cons, genre Donkey Konga, des trucs comme ça.
Ouais.
C'est quoi, c'est un Donkey Kong que tu fais du conga, c'est ça?
Ouais, c'était des petits congas en plastique et tu devais synchroniser avec taper le bongo de gauche, celui de droite et faire des claps. Et en gros, c'était très drôle. Et moi, surtout aussi en mode vraiment pour le coup. C'est pas mal parce que ça c'est le jeu vidéo de soirée qui ouvrait même à la sphère des gens qui jouent pas aux jeux vidéo. C'était typiquement les SingStar, tous les jeux de karaoké like aussi. Beaucoup de soirées là-dessus.
Donc Konga c'est quand même incroyable parce que t'as vraiment l'impression que c'est parti du jeu de mots quoi. Vraiment l'impression que c'est deux types qui fumaient et qui se sont dit attends Donkey Konga il y a un truc à faire et ils l'ont fait quoi. Ça j'aime beaucoup cet esprit.
Et Kevin, cette liste incroyable, hein. Il y avait du Santana, il y avait plein de trucs. C'était très très drôle. Mais là-dessus, t'avais Featuring Infini, et puis c'est un genre qui récemment, il y a Fuser qui est sorti, qui est très drôle, que j'avais testé.
Ah, je vois pas du tout.
Qui se fait DMC à l'infini. Fuser, c'est les mecs de Harmonix, donc, de l'époque, qui sont formés, qui ont fait ça derrière. Et Fuser, en fait, c'est un jeu de DJing, en gros.
Okay.
Ils ont eu, et c'est pas très DMC friendly parce qu'ils ont réussi à avoir plein de stems. De milliards de morceaux, mais là vraiment c'est du très très lourd, hein. Et tu peux acheter d'autres morceaux en plus, mais là on parle vraiment des trucs très récents, enfin du tout le rock 80s, 90s et machin qui a cartonné, tout le récent en rap, et puis le pop music avec des Dua Lipa et compagnie, du Lady Gaga, tout ce que tu veux. Donc là ils ont vraiment une setlist de grosses restas à l'infini, et en gros c'est rigolo, tu dois chauffer une énorme salle de concert, justement en alternant avec quelques tricks, mais en gros t'as quatre platines avec où tu gères tes lignes de basse, tes lignes de chant, et mélodie harmonie, très drôle.
Ça a l'air trop bien.
Genre, c'est marrant,
ouais, tu fais des gros mashups, parce que c'est trop cool d'avoir les stems séparés. Ouais, c'est cool.
C'est l'idée de génie du truc, c'est que t'as vraiment le côté un peu DJing, et comme tu superposes les couches comme ça, tu fais tes transitions et tout, alors c'est accessible, mais c'est vrai que c'est très fun, et en plus, le jeu te récompense quand tu réussis bien des trucs et tout, c'est très cool.
Tout n'est pas parfait, mais c'est rigolo, et puis ouais, t'as quand même la gestion ensuite, petit à petit, ça débloque des trucs, t'as les filtres, tu gères le BPM, hein, plein de choses, etc. C'est très drôle, donc ouais, il y a ça, mais c'est vrai que c'est une scène qui avait cartonné, et on avait presque été... je pense que les décharges ont été... était surchargé de matos en plastique, de guitare en plastique et de batterie. Parce qu'il y avait une époque où c'était hyper récurrent, ça avait cartonné milieu des années 2000 et compagnie. Mm-hmm. Et bon, c'est vrai que ça s'est essoufflé petit à petit, ce genre-là.
Après, il y a eu Rocksmith.
Plus élitiste déjà, Rocksmith, mais très très cool. Il y a des streamers sur Twitch hallucinants. Streamer franco-canadien là qui s'appelle... Ouais. Je vais me détester. Je sais plus comment il s'appelle, alors je l'ai raidé plein de fois. Mais délirant, qui a appris totalement à jouer avec Rocksmith à la guitare.
Je pense qu'il y a 8
heures
personnes
par soir et qui joue tout, quoi.
Je me rappelle.
Qui joue des morceaux de shredding de 12 minutes maintenant, trop énervé.
Il a juste une règle, c'est qu'il joue pas du polyphia, je pense. Il le disait.
Je dis une connerie ou Rocksmith, ça te permet plus facilement de bifurquer sur une vraie guitare, parce que
tu joues avec une vraie guitare, d'accord.
Tu branches une vraie guitare, tu la, selon le morceau que tu veux jouer, il te dit comment l'accorder. Et en fait, t'as le repère avec les cordes et sinon la frette, quoi, genre 12, 9, 3, etc.
Mais c'est une guitare comme livrée avec le jeu, c'est ça? Avec des frettes lumineuses ou un truc comme ça? Enfin, non, comment ça?
Je crois qu'il y avait un kit où tu peux avoir une guitare, mais tu branches n'importe quelle guitare électrique, ça fonctionne, en fait.
Et il capte le son, en fait, les notes que tu joues pour savoir si ça correspond au jeu. Enfin,
je pense que c'est vraiment l'arrivée de cette technologie-là qui a permis de faire ce jeu-là. C'est vraiment quand ça a commencé à vraiment bien reconnaître les pitchs.
Les talons français. Mais ouais, c'est la détection de notes, de rythmique et d'accords aussi. Assez fou.
T'as déjà joué à ça, Michel? À Rocksmith?
Non. On a essayé avec Pépé, mais on n'a pas réussi.
Le problème de Rocksmith, c'est que pour le coup, enfin, même si Guitar Hero, c'est rigolo, c'est les touches en plastique, mais c'est quand même assez dur, surtout en expert.
Ouais.
Là, pour le coup, il n'y a pas d'embrouille. Tu rentres tout de suite dans le maniement de l'instrument, quoi.
voilà, c'est ça. Mais c'était vraiment une question de bug, hein, de software.
C'est juste à full bugger.
Mais j'aimerais bien, hein, ça a l'air cool. Enfin, je trouve ça justement trop cool. Le concept à l'époque m'avait vendu beaucoup de rêves. Je me suis dit, waouh, c'est Guitar Hero avec une vraie guitare.
Mais je pense que vous m'avez donné envie de m'y remettre là. Parce que je pense que vraiment, c'est une méthode d'apprentissage quand t'es un peu procrastinateur et que t'es joueur.
À fond.
Qui doit pas mal fonctionner.
C'est l'aboutissement de la gamification pour l'apprentissage et la musique, quoi. C'est intéressant. Et t'as joué, Michel, à d'autres jeux comme ça? Je sais pas, je me rappelle, vous savez quoi? Un truc assez étonnant. Non, mais je pense que l'un des L'un de mes premiers contacts avec la composition musicale sur ordinateur, enfin sur en informatique quoi, c'était une version de IJ sur PlayStation.
Ah, IJ. Yes.
Ouais, moi c'était, enfin, mais du coup pas sur PlayStation, sur PC, mais ouais, Hip Hop IJ 4. Je pense que c'est mon premier rapport à la musique.
Moi, j'avais acheté du IJ sur PC aussi, juste pour avoir des samples et des conneries du genre. Et j'avais Musique 2000 sur PlayStation aussi, exact.
Ouais, c'est intense. Hein.
Je me demande, je serais curieux de savoir si ça a créé des générations de musiciens, ça, tu vois. Je serais pas étonné que ce soit
bien
le cas.
Sûr, je pense.
Oh, probablement.
Ouais. Il y avait même, ça a un peu rien à voir, mais sur les Nokia à l'ancienne, tu pouvais composer tes propres sonneries, tu vois.
Je faisais ça. Soit le compositeur monophonique.
Ouais, voilà. Et on me demandait de faire des parce que là, j'étais un des petits nerds qui aimait bien faire ce genre de truc. Et on m'avait demandé de faire les hits de l'époque, PIMP, tu vois, ce genre de truc. Et je m'étais trop amusé à faire ces trucs-là. C'était vraiment archi sommaire, mais en vrai, il y a peut-être moyen de ressortir une track comme ça, tu vois. Tu fais une track avec un 3310.
C'est dommage, ces trucs, tu vois, façon IJ, etc. On n'en parle jamais, on les met jamais en avant, alors je suis sûr qu'ils ont contribué d'une certaine manière à élargir la pratique musicale en France, tu vois. Enfin, je sais pas dans quelle mesure vraiment ça a touché beaucoup de monde, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit frémissement au moment quand même qu'on est nombreux, tu vois, à avoir...
Je crois que Musique et compagnie, ouais, IJ, enfin IJ notamment, mais même Musique sur PlayStation et tout, ça s'est vendu, ça s'est très très bien vendu hein, pour le coup, donc ouais... Des gens qui ont dû s'amuser à poser. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont amusés à poser 2-3 boucles et faire 2-3 trucs et qui ont vite abandonné. ça a probablement intéressé des gens ou intrigué des gens au point de lancer derrière un vrai programme.
Ouais, voilà, c'est ça, je pense. Pour de beaucoup de gens, ça a été leur prédo, quoi.
Et ouais, moi, je les prenais juste pour. juste, j'avais déjà commencé à faire la musique. Moi, je les prenais juste, vu que à l'époque, Internet était lent. Il n'y avait pas énormément de ressources. C'était des gros CD, les banques de sons. Donc, moi, j'achetais un petit peu. Dès que je trouvais des trucs, des banques de sons bradées à 10 balles et compagnie, je me disais, bah, je vais les prendre. Ça se trouve, je trouverais des boucles.
Ouais,
des
voilà, c'est ça. Intéressé. Ouais, parce qu'en vrai, tu les sortais du CD. Enfin, elles étaient juste au format WAV dans le truc et tu pouvais l'utiliser dans n'importe quoi après.
C'est ça.
Ça, c'est trop cool.
S'il y avait eu Mélodine à l'époque.
Bah. Ah oui.
OK, bah les gars, on a fait un bon point là un peu sur voilà le lien entre musique et jeux vidéo de manière générale. Il faut qu'on se penche quand même un peu plus sur le travail de compositeur dans le cadre du jeu vidéo et évidemment sur ton expérience à toi MV, donc composer de la musique de jeux vidéo. Toi t'as bossé sur combien à peu près de jeux vidéo dans ta vie vraiment professionnellement, des jeux vidéo commercialisés
En parlant des plus petits projets jusqu'au plus gros, on va dire une trentaine, 30-35, un truc comme ça.
Okay. C'était, j'imagine, des expériences extrêmement variées en fonction des jeux.
Ouais, bah je serais parce que là c'est en train de se faire. Donc, je serais pas bien placé pour parler vraiment de la prod en gros en termes de triple A. Mais ouais j'ai fait un peu tout et du coup c'était des expériences très rigolotes et radicalement différentes, ouais, parce que j'ai fait de la gestion de MIDI et même du sound design en MIDI pour les jeux sur mobile, des jeux sur mobile. J'ai fait du tracker justement pour la Game Boy Advance et la Nintendo DS. Et avant qu'il y ait le support des formats trackers justement sur ces consoles-là, j'ai même utilisé des samplers et des logiciels propriétaires qui étaient utilisés sur la Nintendo 64 et qui étaient les outils officiels de Nintendo, qui étaient une horreur absolue, vraiment un des pires trucs que j'ai eu à utiliser en musique. Espèce de sampler buggé jusqu'à la moelle où en gros, tu devais donner un pourcentage de priorité à chaque son. Donc tu disais, bah la basse, elle est à 80% de priorité. C'est-à-dire que si à un moment... dans le jeu Game Boy Advance, il y avait trop de sons et il y avait aussi des effets sonores. Ben, selon ce que tu avais mis, ça veut dire que ben, là, la basse, elle reste, mais la grosse caisse, elle saute, etc. etc.
Ok.
Donc, il fallait gérer ça et composer en MIDI avec. C'était, on parlait d'un petit peu de limitation et de conneries, ça en faisait partie.
Ça peut être des contraintes intéressantes.
Ouais. C'est vrai. Ouais. Bah, c'est qui ça, qui faisait ces outils?
Cet outil-là, l'outil de base pour Nintendo 64, c'était Factor 5, hein, qui est une boîte qui bosse avec Nintendo depuis la nuit des temps et qui avait fait cet environnement musical. Parce qu'en fait, ils avaient utilisé ça sur la Game Boy Color, parce que la Game Boy Color en fait n'a pas de chipset sonore et tout est géré par le software en gros. Donc si tu fais un jeu de rôle, un RPG où il y a pas trop d'animation à l'écran, tu pouvais te permettre d'aller jusqu'à 6-7 canaux musicaux.
Parce que c'était intégré dans la cartouche, en fait, c'est ça?
En fait, ouais, c'était le CPU, c'était vraiment le processing power de la console qui générait de rajouter des canaux où il y avait des samples, des vrais samples. Okay. En sachant qu'il y avait quand même le chipset de la Game Boy Color. Donc, si t'étais en RAD, tu pouvais quand même utiliser les trois canaux musicaux plus le canal de bruit blanc de la Game Boy Color. Donc, en gros, t'as certaines bandes son. Typiquement, il y a un Castlevania sur Game Boy Advance où il y a quatre canaux de Game Boy Color et quatre canaux avec des vrais sons.
Okay.
Et voilà, il fallait toujours bricoler parce que vu que tout le CPU, le processeur de la console était toujours près du plafond, il fallait voir, essayer d'estimer combien de pistes audio tu pouvais mettre sur ta bande son ou sur certaines pistes selon l'intensité des actions qu'il y avait à l'écran. Donc un gros délire, mais c'était marrant.
T'as raison, Michel, c'est fascinant, ces limitations qui te poussent à devoir trouver à chaque fois, tu vois, des façons de parer tout ça, c'est assez... Moi, tu vois, limite, t'as envie de t'y coller, quoi, quand t'en parles comme
ça.
Je suis sûr que c'est l'enfer en réalité, hein.
Mais
disons, ce qui est cool, par exemple, avec un Amiga ou une Nintendo NES, c'est que tu connais les limitations, les règles ne changent pas. Même si sur NES, il y avait ce problème qui existait aussi. Mais bon, tu savais que tu faisais ton morceau sur ces canaux-là, il n'y avait pas d'embrouille. Et que oui, éventuellement, quand il y avait un effet sonore de la Tortue Ninja qui saute ou n'importe quoi, ça allait prendre le pas sur un de tes canaux mélodiques pendant une seconde, tu vois, mais c'est OK. Tandis que là, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de variables, très pénibles. Donc voilà, il y a eu ces expériences-là. Ensuite, il y a eu des expériences plus classiques avec, par exemple, Bokida sur PC, qui est un jeu de puzzle, plateforme, exploration, ambiance taoïste, où j'ai fait 2 heures de bande-son d'ambiance. Beaucoup de nappes d'ambiance, où là, il y a quelques endroits dans le jeu où j'ai fait du dynamique, où ça bascule de nappe en nappe. Mais sinon, c'est des grosses... des gros morceaux d'ambiance très longs entre 8 et 12 minutes, hyper lancinants, progressifs, etc. Donc très drôle ça aussi. Récemment, j'ai fait le DLC d'un jeu musical, justement un jeu de rythme, old school musical, où c'est de la grosse techno chiptune, enfin de l'électro chiptune, un peu un mix des deux, vu que ça fait référence, enfin il y a plein de références justement aux jeux vidéo des années 80-90. Ouais. Donc ça, c'est un process plus standard. Mais on va dire que ouais, la plupart du temps, surtout sur des jeux de commande, surtout à l'époque, la musique et les musiciens en général étaient un peu le dernier maillon de la chaîne, la dernière roue du carrosse, en mode « Zut, on a claqué tout le budget, vite, qui va faire la musique? Tiens, il nous reste un petit billet, let's go, quoi. » Et souvent, finalement, j'ai composé dans des conditions un peu exécrables, mais en gros, j'avais peu d'infos, quoi. Je pouvais avoir une description, je pouvais avoir quelques screenshots quand c'était Noël, quoi. Ouais. Mais on est... Je pense que ouais, il y a peu de projets finalement où vraiment les musiciens sont impliqués du début à la fin.
Ouais, bah ouais.
Ça commence à être plus le cas maintenant quand on essaye de voilà, vu que maintenant on a envie de rendre la musique un peu plus interactive et pas ouais. juste un outil de fond qui est interchangeable. Maintenant c'est un peu plus le cas, mais c'est vrai que pendant longtemps c'était vraiment un métier un peu ingrat et pas archi reconnu, on va dire, glorifié, ouais. On va dire.
C'est un peu ça a le revers de la médaille dans le sens où quand t'es pas trop impliqué dans le projet, enfin t'as ce truc des musiciens où j'ai l'impression que pour beaucoup de gens ça reste une forme un peu de sorcellerie et que du coup il y a assez peu d'exigences. Enfin je veux dire toi en gros on t'implique pas forcément du début à la fin dans le projet, mais t'as aussi assez bien de liberté et peu de retour.
Ouais, il y a toujours, c'est l'un ou l'autre en fait. C'est vrai que c'est particulier et les développeurs ou les décideurs de manière générale n'ont pas forcément l'expérience musicale ou la fibre pour vraiment te donner des retours précis. Ouais. Donc en général, oui, c'est ou bien on va te donner une liberté totale, ce qui est assez cool, mais du coup faut être inspiré, faut sentir le truc, mais c'est l'opportunité de donner une identité musicale aussi au projet. Ouais. Ou sinon, on va te donner, ça c'est le pire, c'est on va te donner des pistes vagues en mode ouais, on va t'envoyer une piste de Offspring et puis une piste, ouais. une piste de Lady Gaga, on va te faire fais un truc entre les deux et ouais. puis tu renvoies et puis finalement il va dire non, j'aimerais un truc un peu plus avec un peu plus de country et de métal et là bon ouais. tu commences à avoir des échanges cauchemardesques où tu fais 7-8 révisions pour un morceau et des fois pour finalement que le développeur dise non, finalement la première version c'était la meilleure.
Voilà, toujours.
donc ça c'est un peu infernal, mais ça c'est typiquement les jeux de commande. Mais des jeux de commande il y en a beaucoup, hein. Ce qu'on appelle les jeux ouais. de commande, c'est tout simplement, enfin je dis une connerie, mais par exemple une boîte européenne qui a bossé un projet du cœur qui a pas marché. Entre temps, elle va faire plusieurs jeux en mode bon bah tiens, il y a telle énorme boîte qui a les droits de Dora l'exploratrice qui recherche une boîte pour faire un jeu, c'est payé tant, il faut qu'on fasse ce jeu là pour renflouer les caisses et voilà. Ouais. Donc ça, c'est des jeux qui s'enchaînent, on va dire, sans grande âme, quoi.
Bah toi, t'en as fait un incroyable dans le genre.
Bien sûr.
T'as fait Crazy Frog quand même. Crazy Frog Racer
sur Game Boy Advance. Bah justement, avant qu'il y ait le tracker qui apparaisse, enfin le support tracker qui apparaît sur Game Boy Advance, donc avec le programme Infernal, où tous les sons avaient une priorité et tout buguait quand on essayait de faire la musique, donc. Alors dégueulasse.
Quand tu disais.
J'imagine que.
Ouais, vas-y Michel. Ouais.
Tu as déjà rejoué en live?
Je crois que j'avais testé sur un live il y a très très longtemps, mais le jeu est immonde, c'est un jeu immonde.
Ah oui, mais ça, bien sûr, j'imagine.
C'est un Mario Kart raté où il y a quasiment pas d'animation quand ça tourne, c'est une bouillie de pixels, c'est un cauchemar.
Alors attends, quand tu composes pour Crazy Frog Racer, dans quel état mental tu es? Dans quel investissement tu es? Est-ce que tu te dis j'ai besoin de bouffer, mais allez, j'y mets comme un peu du mien? Est-ce que t'es en mode je m'en bats les couilles? Enfin, comment on bosse sur Crazy Frog, franchement?
En fait, c'était tellement un cauchemar que ouais, j'ai rentré quelques motifs marrants, mais c'est une bande son qui a aucune âme. Et en gros, c'est pendant qu'on faisait beaucoup avec les potes sur RC des compétitions d'une heure. On en faisait plusieurs par nuit. En gros, il y avait quelqu'un qui mettait un pack de samples de 500 kilooctets sur un FTP, on le téléchargeait et tout le monde dosait avec ses samples pendant une heure et on rendait et on écoutait. Donc on faisait beaucoup de choses, on discutait et ça fait partie des bandes-sons que je rushais sur le côté. J'essayais quand même de trouver quelques motifs, quelques mélodies rigolotes, mais c'était compliqué. Et puis en plus, bon, tu sais que le jeu, il allait pas être ouf et tout, donc ouais, difficile de s'impliquer sur ces projets-là. Ensuite, des fois, il y a des petits jeux... En fait, tout dépend de la liberté aussi et du type de projet qu'on donne, parce que j'ai aussi fait des bandes-sons que j'ai même plus les fichiers. D'ailleurs, ça a dû mourir sur plein de disques durs, il faudrait que je les retrouve un jour. Mais j'ai fait des bandes-sons en MIDI pour genre des petits jeux à la Zelda ou des RPG sur mobile de l'époque qui sont très peu connus. Et j'avais vraiment fait genre un motif musical qui perdurait tout le long du jeu et tout, que je ramenais dans certaines pistes. Et ça, c'était super kiffant à faire, tu vois. Ouais. Donc le degré d'implication, ouais, c'est selon la liberté qu'on te donne et aussi l'aisance avec laquelle tu peux bosser. Pour le coup, là, le programme sur Game Boy Advance, c'était infernal. Donc j'attendais qu'une chose, c'est que ça se termine. Et anecdote rigolote sur Crazy Frog. Boîte avec laquelle aussi j'ai fait la bande son d'un jeu Maille à l'abeille.
Trop bien.
Et il faut que tu fasses une liste hein, de tous les c'est incroyable.
C'est que le programmeur de ces jeux-là, c'était Manfred Trenz. Manfred Trenz, c'est un programmeur allemand et c'est celui qui a programmé à l'époque Turrican. Et Turrican, c'est genre un jeu phare de Commodore 64 et d'Atari Amiga et même NES, mais surtout de d'ordinateur à l'époque. Et c'est vraiment l'ancêtre de plein de jeux d'action. C'est Contra avant Contra, c'est Megaman avant Megaman, c'est vraiment un trendsetter, comme on dit. Et donc, rigolo, lui aussi s'est retrouvé dans cette prison à faire des jeux de commande à un moment dans sa vie. Hein, voilà.
C'est des choses qui arrivent. Oui.
On peut en sortir, on peut y arriver.
Michel, c'était déjà arrivé, toi, de bosser, alors pas pour deux jeux. Quoi, t'as déjà fait du jeu vidéo? Je pense pas.
J'ai fait un jeu vidéo, mais en gros, on m'a demandé deux, trois thèmes et la question de la dynamique ne se posait absolument pas. Enfin, c'était vraiment, c'était pareil que tous mes autres projets, quoi. Il n'y avait pas de spécificité sur ce projet-là.
Et sur globalement de la musique à l'image, la bande son, je ne sais quoi, c'est déjà arrivé de te retrouver sur un projet où honnêtement tu te disais c'est de la merde, mais j'ai besoin du billet. Et comment tu gérais ça, tu vois? Comment ton Crazy Frog à toi, tu vois?
Non, moi j'ai jamais eu ce truc-là parce que je me considère en fait toujours comme en formation, tu vois. Et j'ai ce truc de me dire qu'est-ce que je vais apprendre? Comment est-ce que je vais me démerder pour apprendre un truc dans ce projet-là? Si la contrainte c'est que le projet il est à chier, je le prends comme une contrainte parmi d'autres, tu vois. Mais à aucun moment c'est un frein ou c'est un truc sur lequel je vais me concentrer. Je vais me concentrer sur la salle du temps. Comment j'apprends?
Une bonne manière de faire, ouais.
Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que je m'épanouis, quoi, et que j'ai l'impression de progresser. Mais du coup, ouais, non, j'ai eu la chance de pas me retrouver dans un projet où je me suis dit, oh bordel, quel enfer, faut absolument que je le termine et tout ça. J'ai eu la chance d'avoir des projets ou d'avoir réussi à trouver l'angle qui faisait que c'était stimulant, quoi, tu vois.
Mais le truc, c'est qu'avec cette approche dont tu parles, à la fois, elle est très saine, et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une forme de détachement affectif ou tu vois un truc comme ça vis-à-vis du produit fini aussi, ou pas, il y a cette part là aussi quand même dans une démarche artistique, même si c'est de la commande, on est bien d'accord, c'est pas ta propre musique, etc., mais il y a quand même l'idée de mettre un peu de soi et d'avoir un rapport affectif au produit final. T'arrives quand même à garder ça tout en ayant ce truc détaché, avant tout j'apprends.
J'avoue que je mets assez peu d'affect dans la musique, tu vois. Je pense que c'est juste un truc cohérent dans l'ensemble de ce que je fais, tu vois. Après, ça dépend. Il y a des morceaux que j'aime bien et tout, tu vois. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est apprendre comment ça fonctionne. Le fait d'avoir un truc, d'exprimer un truc dans mon fort intérieur, je l'avais déjà dit, tu vois. Mais pour ça, j'ai les mots et j'ai pas de souci à m'exprimer avec ça. Je fais pas partie de ces gens-là qui disent moi c'est vraiment avec la musique que je m'exprime, etc., tu vois. Moi je suis vraiment un savant fou qui teste des trucs et qui a envie de comprendre comment ça marche, et j'aime bien cet aspect. La musique, c'est à la fois une science et un art, et il y a de la magie, il y a vraiment tous ces trucs là et ce truc là je le trouve passionnant plus que dire des trucs avec, quoi, tu vois.
Ouais, moi j'ai un peu de ça, mais ouais, c'est vrai que par contre quand je rentre dans des phases un peu orchestrales ambiantes, ouais, j'aime bien un petit peu essayer de mettre de l'âme dans le morceau. Mais c'est vrai que c'est même quand j'ai envie que le morceau ait une âme ou dise quelque chose, en fait c'est plus par rebond après avoir fini, après avoir été un peu en transe dans l'expérience, que je donne vraiment un but, un sens au morceau. C'est vrai que je fais pas le morceau en pensant à ce sens-là, etc.
Ouais, voilà. Mais tu sais, après
la magie de la technique est rigolote, quoi.
Ouais, mais ça n'empêche pas que quand tu le fais, tu recherches un sentiment, tu vois,
c'est vrai.
Le fait que quand tu l'écoutes, ça te fait ressentir un mood particulier que tu cherches et tout ça. Mais c'est pas pour autant que à la fin, moi je suis pas fier de ce que je fais, jamais, tu vois. Genre en musique, jamais je me dis, parce que j'ai toujours l'impression de ne jamais rien créer. J'ai l'impression que je fais un bouquet de fleurs, je me balade, oh, une belle fleur, hop, je la mets, tu vois. Mais j'ai pas l'impression d'être Dieu et de claquer des doigts et qu'un truc se crée et que, tu vois, genre ça, et que ça sort de quelque part. Non, je fais des combinaisons de trucs qui existent déjà, et du coup j'ai l'impression d'être un petit artisan, quoi.
La notion d'œuvre, par exemple, elle te parle pas plus que ça? Tu cherches pas à constituer une œuvre, ton œuvre?
Je me sens pas concerné par ça, non. Pour moi, moi je suis là, je rigole, quoi, tu vois. Non, mais il y a des œuvres, hein, tu vois. Il y a des gens, ils font vraiment des trucs incroyables et tout, mais je me sens pas concerné par ça.
Il y a un petit point, Xavier. J'ai pas réussi à trouver sur internet exactement si tu as vraiment vécu cette scène, mais je la trouve intéressante. C'est la démo scène, les crack trop, tu vois, ce genre de délire. T'as participé un peu à tout ça?
Oui et non. En fait,
présenter ça à ceux, parce que j'ai sorti les mots comme ça et.
En gros, la démo scène. Pour les boomers, ils ont sûrement été déjà exposés à la démo scène. Un gros exemple, c'était une émission de jeux vidéo qui cartonnait à l'époque sur FR3, sur France 3, qui s'appelait Micro Kids, qui passait le dimanche matin, qui parlait de jeux vidéo. Et il terminait toujours par une espèce de démonstration visuelle qui durait 2-3 minutes, où on voyait plein de boules 3D se déformer, des trucs comme ça. Et c'était justement ce qu'on appelle une démo. Et une démo, en fait, c'est souvent fait dans des démo parties. Et une démo, qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement un exécutable qu'on lance à l'époque sous MS-DOS, maintenant sous Windows, etc. Enfin, depuis longtemps maintenant sous Windows, entre autres, et qui est une démonstration visuelle qui va montrer plein d'effets 3D, de déformation, d'animation et de morphing et plein d'effets divers. Créé par des développeurs, des graphistes et des modélisateurs 3D, et souvent un ou plusieurs musiciens qui vont accompagner la musique. Et en général, on fait l'effort justement de faire de la grosse synchro entre le visuel et la musique pour donner un effet qui tabasse. Et il y a plein de catégories comme ça. Il y a des démos où tout est permis, il y a des démos où l'exécutable doit faire moins de 64 kilooctets, des fois moins de 4 kilooctets. On a vu des exemples hallucinants où l'exécutable fait 4 kilooctets, mais finalement, une fois qu'il est lancé, t'as une énorme démo en 3D qui décompresse des gigaoctets de données pendant qu'elle s'exécute. Des trucs assez délirants. Et toute cette scène-là, donc, avec plein de groupes, plein de factions, de crew, on peut dire comme on veut, qui existent partout en Europe et dans le monde, se retrouvaient souvent dans des démo parties. Donc, et les démo parties, c'est l'équivalent des LAN de gaming, sauf que voilà, il y avait des compétitions de démos, des compétitions d'intro, donc qui sont des démos, mais un peu plus comme les intros de cracker à l'époque, quand on craquait des programmes, des démos de musique, enfin des compétitions de musique, des compétitions de pixel art, des compétitions de digital painting, etc., etc. Et ça, c'était extrêmement populaire, ouais, dans les années 90 et un peu dans les années 2000. Et maintenant, par nostalgie, il en subsiste, il en reste quelques-unes, mais voilà.
Je dois avouer que ça fait presque partie de mon éducation musicale, ou en tout cas de la, presque de ma, de la couver- de ma découverte de la musique chiptune, c'est les cracks pour les jeux vidéo, où en fait tu lançais, il générait donc une clé, en fait ça avait été craqué comme ça, et quand tu le générateur, donc l'exécuteur, tu vois, le petit programme, il avait une musique chiptune en général qui tuait sa race. Et
en fait, tu laissais, souvent rasé en 1911.
Et tu laissais tourner le truc. Tu sais, t'avais généré ta clé depuis longtemps. Mais tu vois, de temps en temps, tu le cliquais parce que c'était un moyen d'écouter le son et tu te trouvais trop bien. Et c'était incroyable comme truc. Ouais.
On et donc, ça, comme, ouais. Comme les intros avec ces chiptunes-là, avant de lancer un jeu old school où t'avais un peu une petite démo et qui disait ce jeu a été craqué par la team Razor machin. Ça, on appelle ça des cracktros, du coup. Ouais, voilà, c'était des intros pour les jeux craqués. Très marrant. Et ça c'est un gros pan très très cool de la scène à l'époque. Donc moi j'en ai fait partie sans en faire partie parce que j'ai fait de la musique pour une intro et une petite démo. J'ai fait 2-3 démos parties, mais j'ai jamais fait partie d'un crew qui justement faisait de la démo. Par contre, dans les démos parties, j'ai fait quelques compétitions de musique MP3 et de musique tracker. Pour le coup, et c'était très rigolo. J'en avais fait une près de Paris et c'était trop rigolo. Il y avait tout le monde, les Suédois, les Norvégiens, les Finlandais qui descendaient parce que la Scandinavie, elle était à fond dans la démo scène. Et du coup, c'était marrant. C'était un peu comme une IRL MMORPG, mais créatif, ouais. Quoi.
J'avais jamais entendu parler de ça, mais genre vraiment pas du tout, quoi. Mais ça a l'air trop bien.
Ouais, c'était une scène folle. Et moi, vu que je suis arrivé sur le tard, au final, fin des années 90, j'ai commencé à m'intéresser aux trackers et compagnie. C'était un petit peu après, on va dire, l'âge doré du truc, mais c'était encore présent. Et donc, j'ai un peu vécu ça, mais c'était surtout début mid 90 où. Bah un peu les légendes de la programmation de cette époque-là, les légendes de la musique sous tracker, etc., ont émergé de cette époque-là. Ouais. Mais assez fascinant. Ouais.
J'aime bien parce que c'est... d'ailleurs, est-ce que si vous avez d'autres exemples, je suis friand. C'est en fait, tu sais, quand une culture en rencontre une autre, c'est-à-dire que la culture informatique, c'est du marathon, d'où on se retrouve tous sur un certain temps, on essaye de produire telle chose, etc., tu vois, on se rencontre, on hack ou je sais pas quoi, enfin, tu vois, ce genre de choses.
Oui, les game jams, ou autre chose.
Exactement. Et qui rencontraient là l'univers de la musique parce que les musiciens accompagnaient aussi les mecs qui faisaient ces programmes, etc. Et donc, ça crée presque une forme de compétition, en tout cas une pratique comme ça commune, tu vois, ensemble, qui était à la frontière cet univers, mais qui crée un nouveau truc un peu dans la musique quasiment. C'est parce que c'était pas tout à fait une jam, c'est pas tout à fait une battle de rap par exemple. Enfin, tu vois, je trouve que c'est intéressant comme ça, cette fusion des genres qui amène à une nouvelle pratique musicale d'une certaine manière.
Clairement. En plus, il y avait ces aspects où justement les compétitions où les gens arrivaient avec leurs produits finis, mais en même temps, il y avait aussi cet aspect jam. En gros, pendant les 48-72 heures pendant lesquelles on est ensemble, vous faites également, vous essayez également de faire la meilleure démo, la meilleure intro, la plus craquée. Mmh. Et donc, il y avait un peu cette émulation. Ensuite, comme les LAN, pareil, il y avait des FTP qui tournaient où tout le monde en profitait pour partager les Warez de l'année, mais les logiciels piratés, mais gros processus créatif et de communion, super cool. Et même musicalement très intéressant parce que finalement la démo se rapproche pas mal du clip musical au final, hein, même si c'est une prouesse technique, une prouesse démonstrative graphique et de codage, etc. Mais en général, justement, pour faire péter les trucs, enfin, en plus, c'était mid, fin 90, c'est un peu l'explosion de la scène IDM, etc., Aphex Twin, etc., la musique électro un peu plus expérimentale, dissonante, rythmique. Du coup, il y avait vraiment des trucs cool, quoi, des démos énervés avec de l'électro avec de la percu hyper hachée, hyper parfois rythmique ou avec des polyrythmes. Et du coup, tout ça a été retranscrit visuellement avec, avec des particules, des éclats, des distorsions, etc. Donc, il y avait des trucs bien chambés qui sortaient à l'époque. Ouais.
C'est marrant parce que ça me fait penser à ce qui sort en ce moment, genre sur la chaîne YouTube de Division Records, donc le label de Noisia. Où il y a un peu cette vibe comme ça où genre il y a des artistes comme Former ou Posige ou des trucs comme ça qui font et de la musique très expérimentale et tout ça et des visuels et ils font les deux et c'est assez ouf franchement je conseille d'aller voir genre c'est beaucoup de sculptures 3D tu vois donc c'est pas tellement basé sur le mouvement mais plus sur l'esthétique de ce truc là qui colle avec en général c'est un projet un EP de 4-5 titres mais L'EP Edge Mecha de Former, les visuels sont incroyables et la musique est folle.
Il y a la folie du NFT en ce moment aussi qui est amené parfois comme ça à des croisements, tu vois, visuels, sonores, etc. Enfin, il y a un regain d'intérêt un peu pour une production visuelle et sonore purement numérique. Enfin, tu as du fichier que tu vas partager comme ça parce que comme tu peux le monétiser aujourd'hui, ça devient plus attractif. Mais ça fait que ça pousse des gens aussi à en créer plus, tu vois. Ça, c'est intéressant. C'est vrai.
On m'a proposé d'ailleurs du NFT à un artiste que je trouvais extraordinaire en plus. J'hésite juste parce que, ouais, évidemment, il y a pas mal de débats là. Ça déchire même un petit peu la communauté artistique, justement, le contrepoids entre l'opportunité pour les artistes, etc., de justement enfin avoir du contenu monétisé et de pouvoir enfin croquer, on va dire. Et bien évidemment, l'aspect écologique qui a l'air complexe et un petit peu énervé.
Si vous maîtrisez pas trop ça, je m'adresse juste aux auditeurs, le NFT, la blockchain, tout ça, c'est un univers commun. Je vous invite à regarder sur la chaîne Monte le son, celle où vous trouvez aussi ce podcast. J'ai sorti un épisode et un deuxième qui sort bientôt autour de ces questions, voilà, pour vous présenter comment ça fonctionne la blockchain, comment ça fonctionne le NFT, surtout les applications liées à la musique et qu'est-ce que ça peut changer pour demain, qu'est-ce que ça change déjà aujourd'hui, voilà.
Mais par rapport à la démo scène, si les gens sont curieux, je vous conseille l'excellent site. D'ailleurs, il a un nom bien français parce que les Français étaient très très présents dans la démo scène. C'est poète.net.
D'accord.
Et tout simplement, poète.net, c'est vraiment un petit peu comme scène.org l'était à l'époque. Mais poète.net, c'est vraiment la bible de la démo scène et toutes les démos, tout ce qui a été sorti en démo partie, vous avez absolument tout depuis 20-30 ans. Mmh. Et en plus, vous cliquez sur une démo, vous avez les tops de, voilà, par exemple, en bas à gauche, il y a le top de tous les temps. Donc, vous pouvez voir les plus grosses démos de ces 30 dernières années. Et c'est assez bien foutu parce que vous pouvez télécharger l'exécutable, mais vous avez aussi à chaque fois un miroir YouTube en 1080p 60 fps si vous voulez voir le rendu que ça donnait.
Oh, trop bien.
Donc, très, très cool.
Très bien. Comment t'écris poète?
Pouet.net.
Eh ben écoute, allez regarder ça. Xavier, tu sais, tout à l'heure, on l'a évoqué rapidement, on a parlé un peu de musique procédurale, de vraiment adaptation en temps réel dans du jeu vidéo, etc. Tu maîtrises un peu ces trucs, tu t'es déjà penché dessus. Est-ce que tu sais, par exemple, en termes de composition, ce que ça implique d'exigence, tu vois, pour le musicien, de collaboration avec les développeurs, justement, pour... Et puis même des technos, globalement, qui sont apparus peut-être un peu plus récemment pour vraiment rendre, tu vois, le gameplay, la musique, les mélanger comme jamais, tu vois.
Oui et non, parce que moi, ouais, j'ai déjà fait du travail, mais du travail assez simple entre guillemets, en créant plusieurs nappes évolutives. Et là, c'est du côté développement où justement selon certains triggers activés en jeu, il l'active ou pas. Ensuite, avec certains triggers aussi, selon ce qui se passe à l'écran, on peut mettre des filtres haut, filtres bas, pour, enfin voilà, du pass pour justement un petit peu moduler, changer la texture du son. Pour refléter ce qui se passe à l'écran. Ensuite, justement, Olivier de Rivière, si vous voulez lui parler un jour, il pourra très bien vous en parler, parce que lui, c'est sa grande passion. Mais justement, ils l'ont utilisé dans Streets of Rage 4, et on l'utilise beaucoup dans plusieurs jeux. J'essaie de retrouver le nom de la techno, je ne l'ai pas de tête, là. Mais là, justement, si on touche un petit peu plus à la programmation et au design, là, on peut, voilà, entre guillemets, faire entrer justement plein de procédurales par rapport à des gammes pour rajouter des éléments aléatoires dans la musique selon des actions qui se passent à l'écran. On va dire que de toute façon, à partir du moment où on allie la programmation au sound design et à la musique, tout est possible. C'est juste que ça demande du taf en plus, c'est justement un des trucs que j'aimerais ajouter à mon arc. Ensuite, la programmation, j'ai un rapport très vache avec. J'ai jamais vraiment compris le délire. J'ai essayé plusieurs courses et compagnie, c'est compliqué. Mais évidemment, on peut être épaulé par un programmeur audio pour tout ça. C'est très très fort aussi d'avoir des, en plus du sound design comme on le connaît un petit peu en musique, c'est-à-dire rajouter des textures, embellir avec des SFX ici et là. Pouvoir également gérer cet aspect-là, justement, pour ça permet de s'impliquer plus dans le projet, quoi. Avoir la main mise aussi, en plus de l'univers musical, sur la manière dont il est livré, quoi.
Et ce qui est génial, c'est que ça offre des opportunités créatives, en fait, futures, et même on peut imaginer, pourquoi pas, que ça, que la musique de jeux vidéo influencera ensuite la musique, musique de studio, par exemple. Tu vois, qu'un mec dise, ah putain, je découvre dans un jeu vidéo qu'on peut faire ça, qu'il peut y avoir tel changement de mood, je ne sais quoi, tu sais, ou telle variation qui est en fait liée au gameplay à la base, mais qui peut donner des idées ensuite dans la composition même de la musique, ou je ne sais quoi. Enfin, il y a plein de trucs envisageables, tu vois. J'aime bien le fait de renouveler un peu l'approche comme ça de la création sonore. Et je pense que ça
pour
peut passer
par le
jeu vidéo.
Potentiellement, ça peut être incroyable, tu vois, par le côté participatif, de considérer le public comme un joueur et de réussir à faire un truc interactif avec le public. Ouais. Ça peut être vraiment cool.
Je pense qu'il y a déjà, ça m'étonnerait pas qu'il y ait déjà des trucs un peu en VR qui existent comme ça, mais bon, ça reste de la VR, c'est pas...
Probablement, ouais. Mais c'est assez marrant parce que c'est quelque chose qui existe finalement depuis extrêmement longtemps. C'est typiquement, c'est LucasArts qui avait lancé ça début des années 90, mais c'est très con, les jeux Monkey Island, tout simplement Monkey Island, et tous les jeux point and click de LucasArts de l'époque utilisaient justement un moteur qu'ils avaient nommé iMuse. Et la technologie iMuse, c'est justement de la musique qui évolue et qui déclenche et soustrait certaines nappes et déclenche certains événements et certains bridges et certaines cues selon ce qui se passe, le choix de dialogue qu'on va prendre ou la partie de la carte où on se trouve. Il y a l'exemple de Monkey Island 2 par exemple, où on commence près d'un pont où il y a l'Argo la Grande, qui est le voyou du coin, qui nous dépouille. Et on est dans un espèce de grand village, un grand écran où on peut un petit peu se balader, où il y a plusieurs bateaux. Et rien que cet endroit-là est séparé en fait en 6 zones particulières, ce qui fait que quand on se retrouve près de tel magasin ou qu'on est près de telle ambiance de lumière, en fait la musique est en constant changement. Donc ça existait déjà depuis les années 90, mais c'est de la programmation quoi, pour le coup.
Ouais, voilà.
En plus de la musique.
Et ça, c'est chaud.
Passionnant.
Ouais, c'est vraiment passionnant. Et de toute façon, je pense que ouais, le futur... il restera toujours la qualité d'une bande-son de jeu vidéo. Si elle a certains bangers ou certains thèmes iconiques, ça restera fort, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que le prochain facteur wow, c'est que de la musique de jeu vidéo, c'est quand vraiment on aura cet aspect-là. Il y aura une prod AAA qui aura intégralement maîtrisé ça et qui te proposera du procédural, du dynamisme constant pendant tout le jeu, et ça sera une dinguerie à voir, ouais, je pense.
Ouais.
On a déjà des prémices qui le font, mais...
Mais sans sacrifier le côté mémorable d'avoir un thème principal, des trucs comme ça. Parce que ce truc-là, la technique en soi, je pense que ça peut super bien marcher. Mais dans mes critères à moi, tu vois, pour que ce soit vraiment un truc incroyable, il faut que, en plus, après, t'aies un thème principal, ou au moins ça, tu vois, qui te reste dans la tête et que...
Dans les God of War et les jeux comme Ori aussi. Ouais, le but, c'est justement d'avoir tous ces éléments, tous ces artifices qui rendent le gameplay plus passionnant, mais finalement ça se termine, tu vois, en tunnel vers la cutscene finale ou vers un truc qui met en avant le thème musical fort.
Ouais, voilà. Ori, pour ça, c'était trop bien.
Ori, extraordinaire bande son. Les deux jeux.
J'ai pas encore fait le 2, mais
le 2, encore mieux, deux fois mieux.
On peut repasser peut-être sur le côté plus Twitch et tout ça. C'est vrai qu'on avait abordé au début le fait que tu parles et tu fais quand même de la musique sur Twitch. Comment ça s'est géré, ce truc-là? Toi, tu l'as approché comment? T'as vraiment commencé par le gaming et puis après t'as commencé à essayer d'intégrer ça, ou est-ce que tu faisais un peu tout du début?
Mon Twitch, ma chaîne Twitch au début, c'était un fourre-tout avec certaines personnes qui m'avaient suivi de l'ancienne communauté, donc c'était un peu intimiste. Hein, on était entre 20 et 100-150.
Ouais.
Et ce qui était huge à l'époque, hein, mais en gros, moi je faisais du contenu qui était presque plus anglophone que français.
Okay.
Parce que moi j'étais sur internet depuis 97, mais j'ai décidé de parler à des français sur internet qu'à partir de 2011. parce que moi j'aimais beaucoup l'aspect ouverture au monde, de parler avec des gens qui venaient des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, de Suède, du Japon. Enfin, je trouvais ça fascinant, quoi, plus que qu'essayer de pécho sur caramel, quoi.
Ouais.
Et donc ça s'est fait comme ça, et donc j'ai commencé avec le speedrun. C'est une des activités que je faisais beaucoup à l'époque, donc speedrun, terminer les jeux vidéo le plus vite possible. Et donc je faisais ça sur ma chaîne Twitch en anglais, en français, et de temps en temps je faisais de la musique. J'avais composé, justement, j'avais fait un projet sous Family Tracker, qui est un tracker qui permet de faire de la musique NES avec toutes les limites que cela impose. Et du coup, j'avais fait j'ai un album assez long qui s'appelle Megaman 11 Soundtrack Project, à l'époque où on pensait jamais qu'il y allait avoir un Megaman 11 qui allait sortir. Et donc, c'est vraiment un album de musique à la Megaman, avec 8 thèmes de boss robot, 4 thèmes de forteresse de Dr. Willy, des thèmes de boss, des thèmes de magasin, des thèmes de transition. Donc, une bande-son totale, une fausse bande-son, une mock-up faite sur NES. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fait intégralement sur ma chaîne Twitch, avec des artistes qui avaient fait le design des robots, etc. Et de temps en temps, ouais, de temps en temps, je lançais des trucs au pif. Ensuite, vu que je faisais beaucoup de parodies et de chansons parodiques aussi en tant que Mister MV au fil des années, bon bah je faisais de la musique de merde aussi.
C'est ton côté youtubeur.
C'est ça exactement, donc bah c'est très con hein, mais genre la musique de merde avec le thème de Children de Robert Miles, là j'adore le Zboob fait en live aux The Event, qui est une purge absolue faite avec un Cubase avec deux plugins installés à l'arrache 10 minutes avant, c'est à 1 200 000 vues je crois sur,
let's sur go. YouTube.
Donc ouais bon, ça c'est terrible, c'est justement pour ça que j'ai aussi voulu séparer, faire une deuxième chaîne Twitch, parce que j'ai tout l'aspect des meme songs entre guillemets Mister MV qui cartonne, mais d'un côté quand je faisais de la musique sérieuse, il y avait toujours des gens qui me revenaient, hey, tu nous refais un j'adore le Zboob, poète poète, ouais, et ouais. Ça me cassait les couilles d'une force, ouais, donc voilà, j'ai voulu séparer un peu les activités, parce que c'est vrai que quand je fais de la musique entre guillemets, bah, ma musique c'est un peu sérieuse, je suis un peu tunnel vision et j'occulte, enfin je laisse de côté encore plus le chat que maintenant sur les stream gaming.
Donc parce tu sais que tu as deux chaînes en fait, tu as deux chaînes Twitch sur lesquelles tu en as une spécifiquement pour le contenu vraiment musique, un peu plus sérieux, ok.
C'est ça, je l'utilise pas souvent, mais en gros ouais, j'ai un Mister MV pour le gaming et j'ai Xavier Dang à côté où c'est juste la musique quoi. Mmh. Et donc ça me permet juste, c'est un peu comme fille, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien voir ça, ça me permet, je suis tellement habitué à streamer toute ma vie que ça me paraît naturel de le streamer, tu vois, il y a des gens qui restent quand même et qui kiffent. Puis de temps en temps, je vais quand même prendre la température et échanger avec le chat. Mais ouais, je voulais un endroit un peu plus sain parce que, comme dit, c'est en fait, lancer un stream pour faire de la musique, c'est motivant parce que tu dis, bon, bah voilà, j'ai lancé, il y a quand même des gens qui sont là, ça serait bien de mener un projet à terme ou de bien avancer sur un projet. Mais d'un autre côté, ça peut. Le processus créatif, si tu regardes trop le chat, il est constamment haché, quoi. Donc, il faut choisir la recette qui fonctionne, quoi.
Oui, c'est ça. Mais c'est compliqué de se détacher des feedbacks en temps réel, quoi. Le backseat, en somme.
Oui, ça, c'est compliqué. C'est bien aussi d'avoir des retours positifs en direct, parce que, mine de rien, moi, j'ai sorti des centaines de zik, voire des milliers au fil des années, dans les années 2000 et compagnie. Et c'est vrai que même quand t'étais un peu, enfin, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais même quand t'avais un certain public et que t'étais un peu connu, genre, tu pouvais avoir mis tout ton être et avoir taffé comme un malade sur un morceau, et c'était la guerre pour avoir deux commentaires sur un YouTube ou sur un site de Zik ou sur un SoundCloud, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est vrai que t'avais un manque absolu de feedback à l'époque qui était terrible, entre guillemets. Des fois, t'avais quand même envie d'avoir des retours. Ouais, ouais. Maintenant, c'est vrai qu'avec Twitch, avec juste quelques spectateurs, au moins, tu sais que t'as du retour direct, quoi.
Ouais, voilà. Mais c'est plus ce truc de... en fait, c'est dans quelle mesure est-ce que tu fais un truc collaboratif avec les gens ou pas,
ah,
quoi.
Oui. Ah, parce que c'est
tu vois, ah, ça c'est juste quand je fais les chansons de la déconne qu'on fait du collaboratif. C'est
ouais, voilà. Mais de temps en temps, mais ça t'arrive jamais de tu vois passer un commentaire et tu dis ah ça c'est une putain d'idée, je vais la rajouter.
Si, ça peut m'arriver. Bah typiquement sur une compo orchestrale où je vais commencer à avoir 40-50 pistes ou que je vais commencer à me perdre à un moment. Et oui, bah, tu vois, c'est très con, mais ouais, tu passes sur un bridge et tu te dis, ah, il manque quand même un truc, et il suffit que ouais, quelqu'un te dise, ouais, mais là, au niveau des fréquences, je sais pas, ça serait bien d'appuyer sur une flûte à ce moment-là, et tu dis, ah oui, ouais. Bah, c'est une bonne idée. Et puis, ouais. Ouais. Donc, des fois, ouais, c'est carrément utile. Ouais.
Mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Enfin, moi, j'ai commencé à streamer, du coup, il y a pas longtemps, où je fais de la musique en live, quoi. Et ce truc-là est assez. Au début, c'était compliqué de le prendre en main. Ouais. Puis maintenant, j'en ai juste rien à foutre et. De temps en temps, je les engueule et je leur dis laissez-moi. Ouais, puis après, ça se passe très bien.
c'est ça qui m'a fait une deuxième chaîne. Moi, il suffisait qu'il y ait un ou deux trolls qui viennent et tu sais, si jamais tu vois que le writer's block, entre guillemets, ça fait 20-30 ouais. minutes qu'il n'y a rien qui sort, quoi. Tu t'effaces tous tes arpèges, t'effaces tous tes débuts de morceaux, il n'y a rien qui vient. Il ouais. suffit qu'il y ait deux, trois connards qui viennent pour essayer de te démarrer. Et là, t'es vraiment dans un état d'esprit exécrable, quoi. Oui, donc, il faut juste recadrer les choses et ça se passe bien, en vrai. Ouais.
Et pour continuer un peu voilà, sur ce côté un peu plus personnel, là, toi, ta démarche, donc Twitch, partager ta musique aussi sur Twitch, est-ce que tu as aussi quand même un modèle économique autour de la musique, c'est-à-dire que j'imagine que tu gagnes plutôt bien ta vie d'ailleurs avec le contenu vraiment autour du jeu vidéo, contenu web, ta chaîne principale, etc. Est-ce que tu as su créer aussi avec le temps, ça a peut-être évolué d'ailleurs, un modèle économique autour de ta musique pour pourquoi pas générer de l'argent?
Non, en fait, la musique, ouais, j'en vivais un petit peu avant tout ça, avant tout le streaming. C'était un apport financier, clair. Là, clairement, le streaming du jeu vidéo, là, depuis quelques années, me permet de gagner vraiment beaucoup d'argent. Donc, c'est très cool, c'est confortable, et du coup, je réinvestis de cet argent volontiers dans la musique. En fait, maintenant, je me dis, c'est génial parce que la musique, si j'ai envie que ça fonctionne et éventuellement d'en vivre à un moment. Bah, si ça fonctionne pas, c'est pas grave parce que je gagne très bien ma vie avec le streaming. Et si ça fonctionne, ben bah, c'est cool parce que voilà, c'est très con, mais si j'ai envie d'acheter un énorme synthé, si j'ai envie d'acheter la nouvelle banque orchestrale qui sort à 500 balles, etc., j'ai plus du tout ce frein là, tu vois, j'ai pas besoin de
tu
pirater,
iras tout simplement chez Thomann et tu prendras chez Thomann ce matériel.
Bien sûr, chez Thomann.
Chez Thomann,
souvent
oui.
D'ailleurs. Et donc, ouais, je peux investir à perte dans la musique. Ensuite, il y a des. Là, récemment, par exemple, typiquement, j'avais ressorti un IP de musique orchestrale sur Bandcamp. D'abord une petite exclue Bandcamp avant que ça arrive sur Spotify, iTunes et toute la smala là. Et en vrai ça c'est ça a été fort pour le coup. Ça je m'attendais à rien et ça a rentré genre 10-15 000 euros de vente. J'étais ok, c'est cool, parce que ouais, clairement avec mes chiffres, Spotify, iTunes, tout le streaming, c'est vraiment nul parce que entre guillemets, entre le mec que je paye pour le mastering et la personne que je paye pour le cover art, je me rembourse pas avec les lectures du streaming et compagnie, c'est à perte quoi. Donc clairement, il suffit que je signe. Si jamais je suis signé pour la grosse bande son de jeux vidéo, là c'est clair que je fais une belle année quoi. Ça serait un deal potentiellement, ça pourrait être un deal bande son à 100 000 euros, un truc du genre. Mais sinon non, la musique pour moi c'est du plaisir et de l'investissement. C'est pas du tout pour l'instant, il y a pas de business plan. Pour l'instant c'est à perte et c'est ok. Mais c'est le luxe que j'ai entre guillemets. C'est parce que justement à l'époque j'étais dans l'urgence, donc il fallait essayer de gagner de l'argent à tout prix avec. Là, la chance que j'ai, c'est que j'ai entre guillemets mon boulot alimentaire à côté, mais qui est même plus un boulot alimentaire, c'est un boulot de passion, de plaisir et et d'influence, comme on dit quoi.
Ça doit être particulièrement intéressant d'avoir ce rapport à la musique où genre il y a un moment où t'avais ce truc où bah, tu charbonnes les commandes et tu te retrouves dans des projets un peu merdeux où tu le fais parce que ça te rapporte un peu, et puis ce truc où justement tu peux ce truc là ne devient plus du tout une contrainte et du coup tu peux vraiment juste tester des trucs.
Ouais, c'est ça. Et c'est-à-dire maintenant, autant dans le streaming gaming, maintenant je peux refuser plein de choses et même hyper bien payer parce que j'en ai plus besoin, donc j'ai le droit d'être picky sur ce que je veux faire et de négocier des prix forts. Et en musique, pareil, je me dis, bah, si mon gros projet de musique ou le projet de passion de musique vraiment cool, il arrive demain ou il arrive dans 4-5 ans, c'est ok parce que je suis plus dans une urgence où je dois enchaîner les jeux de commande ou les jeux alimentaires, quoi. donc ouais, c'est super confortable comme situation. Ensuite, avec le streaming, la vie de famille, et tous les trucs, c'est vrai que je fais pas autant de musique que j'aimerais en faire et je progresse relativement lentement, mais ça reste un gros plaisir. Et bizarrement, même si j'en fais moins, à chaque fois je progresse plus vite qu'à l'époque, je trouve, que quand j'étais dans le jus, peut-être parce que j'ai plus envie de progresser aussi que juste répéter les mêmes schémas. Donc
peut-être
c'est cool.
Plus de recul sur ta pratique aussi.
Oui, je pense, un peu, ouais.
Et je réagis juste à ce que tu dis. Je t'ai quand même entendu dire parfois, si je dis pas de conneries, sur Twitter, etc., que si tu en avais la possibilité, tu te consacrerais qu'à la musique. Si ça te permettait de bouffer uniquement avec ça, si c'est continué, c'est moi qui te délire ou tu as bien, effectivement, c'est ce que...
Ouais. Oui, sinon c'est vrai. En vrai, le streaming, je prends toujours autant de plaisir à le faire, mais c'est vrai que je pense que voilà, progressivement, une fois que c'est très con, hein, c'est cliché, mais quand la maison, ça sera assuré que entre guillemets tout. Tout ce qui est tout le pécunier sera réglé. C'est vrai que ouais, j'aurais plus d'intérêt, enfin je serais plus épanoui si j'arrivais à avoir mon sous-sol où j'aménage vraiment un côté vraiment studio de musique, et j'aimerais vraiment à ce moment-là garder quelques gros streams du soir, entre guillemets, pour que la chaîne existe encore. Et puis, ça m'amuse toujours de streamer, hein, bien sûr. Mm-hmm. Mais clairement, passer beaucoup plus de temps sur la musique, à l'apprentissage, vraiment prendre des profs et faire mes armes sur des choses que, où ça fait 20 ans que je me dis que j'allais m'y mettre et je m'y mets pas. Et avoir ce temps-là, quoi.
De manière professionnelle, c'est-à-dire mener seulement une carrière de musicien, mais c'est surtout apprendre dans le domaine de la musique, en fait, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. Ensuite, si le but, évidemment, si après tu t'apprends plein de choses et tu t'étoffes un petit peu ton arsenal, c'est de pouvoir rendre des projets, des albums et des choses de plus en plus propres. Donc, éventuellement, oui. Mais oui, clairement, je parlais plus de la musique de manière générale. De toute façon, si le projet, par exemple, musical, là, je signe, déjà, ça va être une bande son de 1h30. Et déjà, là, je vais devoir un petit peu freiner le stream pour un peu me concentrer sur ça. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais rien de pressé. Donc ouais, à long terme, j'aimerais bien quand même que la musique reprenne un peu plus de place dans ma vie.
Et t'as des projets potentiels qui, je veux dire au-delà de travailler sur un gros projet, tout ça, mais des trucs qui, je sais pas, qui t'attirent un peu particulièrement, tu sais, des milestones que tu dis, ah putain, si je faisais ça, ce serait vraiment archi stylé, des petits moteurs.
Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup d'envie d'idées. Ensuite, c'est le temps qui manque. Moi, je sais c'est que. Je comparais, il y avait un artiste à l'époque qui avait commencé un projet où il devait faire un album par état des États-Unis, c'était Sofiane Stevens.
Ah ouais.
Okay. Et bon, évidemment, et au bout de 2-3, il a rage quit. Mais moi, avec via la musique de jeux vidéo et via les compétitions de musique chronométrée, etc., j'ai touché à beaucoup de styles. Et je me dis que typiquement, un truc tout con, mais sur une année, faire vraiment un mois, un album sur un style de musique particulier, ça, ce serait un projet, un fil rouge cool à faire. Rien de très original.
Tu fais du PV Nova, quoi.
Mais ça, c'est des fils rouges très, très cool, je trouve. Je pense que c'est des trucs où tu dois vraiment avoir plein le cul à un moment d'être dedans, de les faire. Mais une fois sorti de ça et d'avoir produit autant de tracks, je pense que t'en ressors vraiment satisfait. Et du coup, tu as les idées un peu plus claires sur ce que tu veux faire derrière. Là, je fais tellement peu de musique, entre guillemets, par rapport à ce que j'aimerais faire, qu'à chaque fois que je termine un truc, je suis à fond et je suis hyper satisfait. C'est très con, là, on est une émission de jeu de rôle, tu vois, qu'on fait tous les 15 jours. Ouais. Et j'ai passé genre 8-10 heures à composer la petite suite orchestrale avec une chanteuse qui fait les voix pour juste le générique de 55 secondes de l'émission. Et genre, j'étais à fond, j'étais trop content. J'arrêtais pas de re-render mon morceau parce que j'avais changé le volume de deux clarinettes et de hautbois. C'était vraiment la lobotomie absolue, mais j'ai pris énormément de plaisir à faire ça. Ouais. Donc clairement, le stream apporte des fous rires et des moments super cool, et c'est ça qui est sympa, c'est que malgré le fait qu'il y a un peu de... Ça fait 8 ans maintenant que je stream, 9 ans. Donc il y a un peu de lassitude, mais au final qui disparaît parce que tous les jours, il se passe une connerie, un fou rire et des trucs. Donc ça va, ça se recycle de manière assez régulière pour rester passionnant. Mais la musique, en termes vraiment de satisfaction et d'émotion brute, c'est vraiment ça qui m'apporte les moments les plus forts, tu vois. C'est beaucoup plus rare. Mais c'est des motifs de satisfaction, la musique, qui sont autres, quoi. Quand je fais un truc, j'en mets, ou quand j'arrive à faire quelque chose, ou que je découvre quelque chose, quoi.
Même si c'est toujours pareil, ça se trouve, si ça devenait ton activité principale, et à l'inverse, le stream, ce serait, et tu dirais, oh, c'est le stream, ma petite bouffée d'air, tu vois. Enfin, je sais pas, il y aura certainement un truc comme ça. Enfin, bon.
Quand on est dans c'est vrai, t'as raison. Mais c'est cool d'avoir, en tout cas, deux options, quoi. C'est deux options.
On cherche un équilibre, en tout cas, d'après ce que je comprends.
Exactement.
Très bien. Les gars, on s'arrête là. C'était très intéressant, en tout cas. Merci beaucoup, Xavier,
merci
d'être venu nous voir. Ça nous a fait bien plaisir.
Très cool.
Je pense que qu'on a abordé des sujets intéressants, que ce soit pour les gens qui connaissent pas du tout le jeu vidéo et la musique, pour d'autres qui connaissent un peu mieux ça et qui ont pu approfondir peut-être quelques points. Merci à Thoman de nous aider pour faire cette émission, d'autant plus que voilà, comme je vous le disais en début d'émission, c'est un peu compliqué en ce moment, on cherche à se stabiliser, mais on va revenir et plus souvent, donc ça sera l'occasion d'avoir plus d'invités, plus de sujets, donc vraiment on va se passionner de musique de ouf, ça va être trop bien.
Plus de quantité, moins de qualité.
Non, la qualité reste la même, voire elle s'améliore.
Ok,
Michel,
ça va.
Allons, l'exigence de qualité.
Sûr.
Et peut-être quand même, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Xavier, Mister MV? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant si les gens veulent aller voir ton travail, que ce soit en musique ailleurs, un ou deux lieux où on peut retrouver un peu ce que tu fais peut-être?
Bon, juste Xavier Dang sur tout, quoi. Sur okay. Spotify, iTunes, Bandcamp, SoundCloud, machin. Donc, toute la musique, c'est Xavier Dang. Sinon, Mister MV, c'est trouvable assez facilement Twitch, YouTube pour le gaming.
Super. Michel, un truc à mettre en avant en ce moment ?
Rien de spécial. Zizi Kaka Mixtape, ça arrive fort. On travaille, en tout cas.
Yes.
Et ouais, voilà. Et toi, mon petit Salman?
Eh bien, toujours mes bonnes vidéos, là, comme je le disais en ce moment, sur la blockchain. Voilà, je pense que c'est des sujets intéressants. Et puis, d'autres en préparation, évidemment. Non, si, ce que je peux dire, par contre, c'est n'hésitez pas vraiment. Je sais que vous êtes nombreux à regarder ou écouter ce podcast sans être forcément abonné. Je sais que vous appréciez. Je reçois parfois des messages privés, ce genre de choses. N'hésitez pas à publiquement un peu le dire en vous abonnant, un petit commentaire, un truc comme ça. On reste encore un peu de niche, encore un peu confidentielle, et on pense qu'il y a un beau potentiel et que ça mériterait d'être mis en avant, et pour ça on a besoin de vous, donc n'hésitez pas vraiment à lâcher vos coms, petites étoiles, etc. Voilà. Okay. Et puis bah Michel, Adam, peut-être pas dans un mois, on va voir comment ça se passe, mais si on arrive à trouver là notre monteur, si ça se goupille bien tout ça, on va revenir plus souvent, on va voir comment ça se passe. Dans tous les cas, vous serez au courant. À bientôt tout le monde. Ciao Xavier, merci encore une fois.
Ciao, ciao,
ciao.
Merci. Bye bye.
Oh, thanks.